Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Excellent Père de gloire, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es non seulement avec nous, mais tu es en nous, Seigneur. Tu nous as gardés depuis hier, tu es encore avec nous aujourd'hui. Et je sais qu'aujourd'hui encore, comme toutes les fois, comme chaque fois, parce que tu nous as jamais manqué, tu n'as jamais manqué ce rendez-vous, Seigneur, tu feras des miracles, tu feras des prodiges. Merci, Seigneur, parce que ta parole de vie va toucher des gens maintenant, au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, parce que ta parole va affranchir des gens maintenant, au nom de Christ Jésus. Merci, parce que quelqu'un va guérir, quelqu'un va voir sa vie transformée, quelqu'un va se réveiller, quelqu'un va rouler sa pierre ce soir par ta parole, au nom de Christ Jésus, Seigneur. Tu sais de quoi nous avons besoin, tu sais ce qui doit nous restaurer, tu sais ce qu'il nous faut, Seigneur, qu'il te plaise de pouvoir avoir nos besoins ce soir. Parle-nous, Seigneur, prends le contrôle, nous voulons nous abandonner à toi. Parle à chacun de nous. Que cette soirée soit une soirée extraordinaire, une soirée qui nous délie, une soirée qui nous fortifie, une soirée qui nous équipe, une soirée qui nous outille, une soirée qui nous fait rentrer puissamment dans ton règne. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu as déjà fait cela pour nous. Sois béni. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bienvenue. Nous allons rapidement voir s'il y a des questions qui sont restées en suspens à la fin de la séance d'hier. Et nous allons essayer d'y répondre rapidement avant de continuer par ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Parce qu'hier, nous avons essayé de planter le décor pour mettre les gens dans le contexte, dans notre histoire avec Dieu. Parce que si on ne sait pas d'où nous venons avec Dieu, si on ne sait pas où nous allons avec Dieu, il est difficile de comprendre comment mettre le ciel en fait. Il est difficile de savoir comment marcher avec Dieu. Il est difficile de savoir comment réussir avec Dieu. Et nous, nous avons pour objectif dans ce séminaire d'attirer votre attention sur comment vous pouvez mettre le ciel en fait. Car il est évident qu'on peut mendier auprès d'un homme et recevoir des choses, recevoir des miettes. Mais quand vous mettez quelqu'un en fait, quand vous réjouissez le cœur de quelqu'un, il vous donne toujours infiniment plus que ce qu'il donnerait à un mendiant, que ce qu'il donnerait à quelqu'un qui l'a juste fatigué. On le voit bien avec la parabole du juge unique. Il a fini par se débarrasser de la veuve en lui rendant son bon droit, c'est-à-dire en lui donnant le minimum auquel elle a droit. Mais il ne l'a pas richement béni. Il ne l'a pas gâté pour gâter quelqu'un. Et je crois que nous voulons être gâtés par Dieu. Je crois que nous voulons être bénis par Dieu. Nous voulons être sous un ciel où les écluses sont ouvertes pour nous. Cela n'est pas possible sans réjouir le cœur de Dieu. Et nous allons ce soir aller en détail, aller en profondeur dans notre sujet, pour voir pourquoi et comment réjouir le cœur de Dieu. Alors, est-ce que par rapport à ce qu'on a vu hier, très très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Si oui, on les prend rapidement, on y répond et on continue. Comme je l'ai dit brièvement hier, effectivement, sans insister là-dessus, la différence entre l'homme, par exemple, et les anges, c'est que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Dieu nous dit d'ailleurs dans sa parole que nous sommes des dieux qui mourront comme des hommes. Les anges ne sont pas des dieux. L'homme est un dieu. L'homme est la seule créature qui a été faite à l'image de Dieu. Vous prenez les animaux, ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. La seule chose créée par Dieu, qui est le libre arbitre, qui est la possibilité de vouloir ou de ne pas vouloir, qui est la possibilité de créer, la possibilité de penser, la possibilité d'aimer, la possibilité de parler, ces choses qui font Dieu sont le privilège de l'homme. Et pour que ce privilège soit, l'homme devrait avoir un libre arbitre. Supposons que vous allez dans votre village, si vous êtes un homme par exemple, vous trouvez une pauvre paysanne qui n'a pas de moyens, parce que ses parents n'ont pas de moyens, vous offrez 1 million à son père, puis vous vendez sa fille. Il dit, je te la vends, qu'elle soit ta femme. Elle ne peut pas vous désobéir, elle est bénie, oui, si vous dites ne bouge pas, elle ne bougera pas, vous dites de ne pas sortir à la maison, elle ne sortira pas. Vous voyez bien que vous avez un esclave en laisse dans votre maison. Elle ne vous procurera jamais le millième du plaisir que vous procure une femme brillante, que tout le monde aime, qui a tout ce qu'il faut pour être libre, qui va partout, que les gens apprécient, mais qui décide librement d'être votre femme, de vous aimer, de dire non à tous les autres et de passer sa vie librement à vous faire plaisir. Ayant tous les jours des occasions de regretter son choix, mais décidant par amour et par fidélité de rester. Quand quelqu'un qui a le choix de ne pas vous aimer, quand quelqu'un qui a le choix de ne pas rester est avec vous, cela procure une joie, un bonheur indicible qu'un esclave ne vous procurera jamais. Si Dieu n'avait pas donné à l'homme le choix de l'aimer, nous ne serions pas différents des anges. Dieu a des légions d'anges qui ne lui ont jamais désobéi. Mais il n'en est pas heureux. Il veut avoir le bonheur que ses enfants qui sont libres de l'aimer ou de ne pas l'aimer, l'aiment. Et pour que ce bonheur soit bonheur, il fallait que l'homme ait la possibilité de ne pas aimer Dieu, mais choisisse malgré tout d'aimer Dieu. C'est paradoxal, mais c'est ça qui fait que notre amour pour Dieu a un sens. Sinon, nous n'aurions ni mérite, et Dieu n'aurait pas de raison non plus de se réjouir que des choses qu'il a créées en les obligeant à lui obéir, lui obéissent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est dans ce libre arbitre, dans cette souveraineté, dans cette responsabilité de l'homme que se trouve toute la beauté de ce que Dieu a pris le risque de faire à travers l'homme, quelqu'un à son image, quasiment quelqu'un qui, sans être son égal, peut traiter comme père et fils avec lui, et pas simplement comme père et serviteur, pas comme père et esclave. Et c'est l'une des choses que Jésus a dit. Il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes maintenant mes amis. Parce qu'on ne dit pas ce que je vous ai dit à un simple serviteur. Dieu est en quête de personnes qui vont l'aimer librement. Il est en quête, comme chacun de nous, d'un enfant, de sa postérité, de quelque chose qu'il a engendré, qui lui ressemble et qui lui offre le bonheur de savoir qu'il est un père avec des enfants qu'il aime. Et c'est pour ça que Dieu est si sensible que ça à la louange, parce que c'est des choses qu'on fait librement. Les animaux louent Dieu tous les jours, toute la création loue Dieu, mais rien ne touche autant Dieu que la louange de quelqu'un qui avait la liberté de ne pas le louer. Et plus généralement, nous avons toujours le choix entre le bien et le mal. Évidemment, Dieu n'a pas créé le mal. Dieu a créé le bien, mais a laissé à l'homme le choix de suivre le bien ou de ne pas le suivre. Quand l'homme suit le bien, il n'y a que le bien. Quand l'homme ne suit pas le bien, il est dans l'opposé ou dans le non-bien, et c'est le non-bien qui est le mal. Parce que parfois les gens disent, mais pourquoi il y a tant de catastrophes naturelles? Pourquoi il y a tant de désordres dans le mal? Pourquoi le mal est si présent? Le mal est si présent parce que Dieu nous a créés pour faire le bien, mais nous a donné le choix de ne pas faire le bien. Et tout ce que nous avons de mal dans le monde est la conséquence des choix que nous avons souvent faits de ne pas faire le bien. Pourquoi? Parce que Satan nous a séduits et nous a convaincus de ne pas faire ce que Dieu a demandé de faire. On me dira pourquoi Dieu, de manière autoritaire, ne casse pas tout ça. Parce que Dieu est parfaitement juste. Il y a une procédure, si on veut être rigoureux, si on veut être légal, si on veut être éthique, la justice prévoit les mécanismes pour que le chef, même s'il a raison, exerce sa raison. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus fort que vous pouvez aller saisir quelqu'un parce que vous êtes le plus fort. Quand vous êtes un chef et que vous êtes juste, et Dieu est juste, même en tant que chef, vous êtes obligé de suivre la loi. Dieu est obligé de suivre la loi. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est lié que par sa parole. Dieu n'est lié que par sa parole. Donc, la parole de Dieu qui en même temps la loi lit Dieu. Il y a des règles pour faire les choses. Dieu a beau être le plus fort, il ne va pas s'autoriser à violer ces règles, même s'il aurait raison de le faire. Parce que ce serait se contredire, et Dieu ne se contredit pas. C'est cela qui explique qu'il y a beaucoup de choses que nous demandons pourquoi Dieu ne fait pas. Dieu ne les fait pas parce que ce serait tout simplement pas légal de les faire. Et que Dieu, en tant que Dieu, est obligé d'être parfaitement légal. Parce que pour bien cerner Dieu, si on peut le cerner, il faut penser à toutes les caractéristiques de Dieu. Il est parfaitement amour, mais il est parfaitement justice. Il est miséricorde, mais il est aussi sainteté. Il faut voir Dieu dans son ensemble. Et généralement, nous ne comprenons pas Dieu quand nous le regardons que sous un angle. Quand vous prenez le caractère justice de Dieu, c'est le caractère justice de Dieu qui fait que quand Dieu dit que le péché doit donner la mort, le péché ne peut que donner la mort. Si Dieu revient sur ce principe, il n'est plus Dieu. Il n'est plus juste. Parce que le péché, ça doit donner la mort. Il n'y a rien à faire pour que Dieu ne soit pas juste. Voilà, il est parfaitement juste, mais il est parfaitement amour. Étant parfaitement amour, il a envie de pardonner 77 fois, 7 fois. Il a envie de pardonner n'importe quoi. Il est prêt à mourir pour pardonner. Il est prêt à aimer sans condition, même les gens qui ne sont pas dignes de son amour. Comment peut-on être à la fois cet amour qui est prêt à tout pardonner et être cette justice qui est obligée de frapper? C'est ça le dilemme auquel Dieu a dû faire face. Il n'y a qu'une solution, appliquer la justice, mais prendre le châtiment pour soi-même, afin que par transposition de sanctions, la justice ait été appliquée dans son entièreté, mais que la personne aimée ne soit pas pénalisée. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la perfection de Dieu dans chacune de ses caractéristiques et son incapacité à se contredire qui ne lui a pas laissé le choix que d'aller prendre le châtiment à notre place pour que la justice soit accomplie, mais pour que l'amour soit manifesté. Oui. Ce n'est pas un symbole du diable. Le doute est un produit du diable. C'est une arme du diable. Et une fois encore, le doute n'est pas quelque chose. Le doute, c'est l'absence du contraire du doute, qui est l'obéissance, qui est la foi. La foi, c'est quoi? C'est le fait de se dire tout bêtement. Et c'est pour ça que Dieu dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Quand vous êtes un père ou une mère, quand vous dites quelque chose à un enfant, parfois même des choses ridicules, dans le genre, il y a un monstre derrière le rideau, c'est ridicule. Mais l'enfant ne réfléchit pas. Comme c'est papa qui a dit qu'il y a un monstre là, il y a un monstre là et il a peur, point final. L'enfant ne met pas en jeu son intelligence ou ses raisonnements. Peut-être parce qu'il ne sait pas encore beaucoup de choses, mais il croit tout simplement parce que son père a dit ou parce que sa mère a dit. Je dirais que c'est un choix que de s'interdire, d'éprouver. On peut analyser pour comprendre. C'est ce que nous faisons ici. Mais si vous devez faire un choix, c'est de vous interdire de mettre en doute toute parole qui vient de Dieu. Il faut le croire comme un enfant, point final. Y compris contre les apparences. J'explique souvent qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que vous sentez, ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce que vous entendez. C'est le produit de nos cinq sens. La vérité, c'est ce qui est. Ce qui est n'est pas toujours visible. Et ce qui est visible n'est pas souvent vrai. Quelqu'un peut être en train de rire avec vous. La réalité, c'est qu'il est votre ami. La vérité, c'est que c'est votre pire ennemi qui va vous poignarder. Pendant ce temps, quelqu'un a l'air de mauvaise humeur. Vous pensez qu'il vous boude. La vérité, c'est qu'il vous aime, mais qu'il a un souci. Peut-être qu'il a même du chagrin parce qu'il sait qu'un malheur va vous arriver. Il va se demander comment faire. La vérité, ce n'est pas la réalité. Le problème, c'est que Dieu connaît la vérité, qu'elle soit visible ou non, et qu'il vous dit c'est comme ça. Et vous confrontez à ce que Dieu qui a tout créé dit, ce que vous voyez, en oubliant que vous ne voyez rien. Quand vous regardez là, vous ne voyez pas plus d'un kilomètre. Ou bien, vous regardez dans l'eau, vous dites que c'est propre. Quelques minutes après, il y a plein de dépôts. Vous prenez 200, quelqu'un qui a le sida, quelqu'un qui n'a rien, vous n'êtes pas capable de voir avec vos yeux la différence. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air ici? Est-ce qu'il est pollué? Qu'est-ce qu'il y a comme gaz? Vous ne voyez pas. Les ondes GSM, vous ne voyez pas. Les fréquences radio, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas l'essentiel des choses. Mais malgré ça, nous avons le culot d'imaginer que nos sens sont suffisamment fiables pour qu'on les utilise pour contester Dieu. Voilà tout le problème. Vous avez un outil par définition imparfait. Et vous osez utiliser les résultats de cet outil-là pour douter de la parole de celui qui a tout créé, compris votre outil. C'est là qu'il y a la bêtise. Et c'est cette bêtise-là qu'il faut vaincre une fois pour toutes dans notre esprit, si nous voulons pouvoir marcher par la foi. Mais pour avoir la foi, il faut connaître Dieu. Il faut savoir ce qu'il a promis. Il faut croire ce qu'il a dit. Et payer le prix de résister au doute pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et comme Dieu ne ment jamais, il est impossible d'attendre par la foi à Dieu de ne pas le voir se manifester. Quand vous ne voyez pas Dieu se manifester, c'est toujours parce que vous avez fléchi par la foi, parce que vous avez du doute. Or, il dit que celui qui doute ne s'imagine même pas qu'il pourrait recevoir quoi que ce soit de Dieu. Bien souvent, Satan utilise nos doutes pour nous voler ce que Dieu nous a destiné. Et c'est pour ça que vous devez lutter contre le doute. Pour ceux qui ne sont pas, qui sont récents, demandez à la bibliothèque numérique, on a fait un séminaire sur comment devenir un géant de la foi. Nous avons amplement développé ce sujet-là, amené des clés USB, des choses comme ça, on va vous les copier dessus. Vous allez pouvoir réécouter ce séminaire, il va vous aider beaucoup. Autre chose? Une dernière question? C'est bon? Parfait, nous allons continuer. Alors, aujourd'hui, nous allons donc avancer dans notre sujet. Comment réjouir le cœur de Dieu? On a commencé à découvrir hier que, vu notre histoire avec Dieu, la chose qui compte le plus pour Dieu au monde, c'est le salut des âmes. Chacun de nous a une âme et un esprit que Dieu a destiné à être au paradis pour l'éternité. Satan travaille très très fort et très vite, très laborieusement, pour que le maximum des personnes que Dieu a destinées au paradis finissent en enfer. Il use pour cela du fait que Dieu étant juste, les mêmes causes vont produire les mêmes effets avec Dieu. Si quelqu'un désobéit à Dieu, il est censé aller en enfer. Dieu, pour réduire les dégâts, est venu créer un genre de passeport diplomatique pour le ciel. C'est-à-dire, il est venu payer le prix pour que certaines personnes qui reçoivent le passeport diplomatique de Jésus puissent franchir les portes du ciel en dépit de leurs péchés. Mais encore faudrait-il aller faire la formalité pour prendre son passeport diplomatique. Là encore, Satan se débrouille pour que les pauvres gars qui n'ont qu'à prendre un passeport diplomatique, c'est-à-dire confesser Jésus, disent « c'est pas important, il n'y a rien de grave là, laissez-moi vivre ma vie ». Conclusion, Satan est en train de recenser ou de recruter de nombreuses âmes, la majorité des âmes pour l'enfer, et cela chagrine Dieu. Quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un est un chrétien, en pratique, il est déjà assuré d'aller au ciel. Quand quelqu'un fait ce que vous avez fait hier, quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, c'est clair, c'est certain. Il est scellé pour le ciel. C'est garanti. C'est vrai, comme vous le verrez dans la Bible, que le ciel, c'est un grand territoire où il y a différentes zones, il y a différentes villes, il y a différents standings. Il y a, comme je dis, les quartiers populaires du ciel, et puis il y a la salle du trône. La question, ce n'est pas seulement d'aller au ciel, c'est où vous serez au ciel. Moi, je ne veux pas être dans la partie, je veux pas être à Vossa au ciel, je veux être au quartier Jacques aux Champs-Élysées du ciel. Donc, il y a des trônes au ciel. L'enjeu de notre vie, quand nous sommes chrétiens, ce n'est pas d'aller au ciel. En donnant votre vie à Jésus, vous êtes condamné à aller au ciel. Sauf si vous commettez le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous vous moquez de Dieu. Ça mis de côté, vous êtes presque sûr d'aller au ciel, vous êtes même sûr d'aller au ciel. Mais pourquoi, quand nous sommes nés de nouveau, alors que nous avons déjà la clé du ciel, Dieu nous laisse vivre? Ce n'est pas pour aller à l'église. Aller à l'église, c'est bien, j'insiste. Mais l'église doit être juste une famille où on apprend à connaître Dieu, où on est couvé, où on est équipé, où on est fortifié avant d'aller conquérir le monde pour le Seigneur. Si vous naissez de nouveau, que Dieu vous laisse vivant, c'est parce que maintenant vous faites partie de son armée. Il dit qu'à cela, au lieu de rappeler un soldat au siège, envoyez-le sur le terrain, gagnez de nouveaux territoires pour le ciel. Quand vous rentrez dans l'armée de Dieu, quand vous êtes acquis pour le ciel, votre vie sur la terre n'a qu'un seul objectif. Passez chacun de vos journées, utilisez toutes vos forces, utilisez tout votre temps pour gagner d'autres personnes au ciel. Vous avez reçu gratuitement le ciel, Dieu s'attend à ce que vous donniez gratuitement le ciel. Et la seule fois dans la Bible où on parle de ce que le ciel soit en fait, c'est quand on parle du salut d'une âme. Jésus nous dit que quand un seul de ceux qui étaient perdus, quand une seule des brebis est sauvée, le ciel est en fait. Et plus généralement, Si les gens ne sont pas bénis souvent à l'église, c'est parce qu'ils ont une conception fausse de ce qu'est la bénédiction. Un chef ne bénit pas les gens pour leur faire plaisir en réalité, même si Dieu est amour. Regardez bien. Pour bien comprendre Dieu, essayez toujours d'analyser certaines choses par rapport à la réalité terrestre. Si je prends un président de la République, tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être DG, on le sait. Pourquoi ils veulent être ministre et DG? Pour avoir les avantages qui est être ministre et DG. Voiture de fonction, un petit garde-corps, nommer des gens et avoir des budgets dont une partie servir à ceux auxquels il est destiné. Ils ont bien les choses. Les gens veulent être nommés parce qu'avec la fonction vient des avantages auxquels ils aspirent pour prospérer. On est tous d'accord. Parfait. Mais je ne connais pas beaucoup de chefs qui disent, comme Pierre me plaît, je vais le nommer ministre pour l'enrichir. Ça n'existe pas. Les gens disent plutôt, Pierre est politiquement influent. Il peut m'être utile. Il peut me gagner sa localité. Si je lui donne des moyens, il va me verrouiller, par exemple, Covey, au niveau des législatives. Au nom de cela, parce que j'ai besoin qu'il me verrouille Covey, je vais lui donner un ministère, sachant que les moyens qui vont donc tomber dans ses mains lui permettront d'atteindre non seulement les objectifs officiels, mais les objectifs officieux que je lui assigne. Et même souvent, avec certains chefs que je connais bien, ils sont en fait mécontents même que les gens arrivent à s'en sortir avec des à côté. Mais comme on dit en fond, c'est-à-dire, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils pouvaient avoir des gens qui les servent sans rien laisser tomber dans l'escarcelle des gens, ils le feraient. Mais il n'y a aucune manière de permettre à quelqu'un de te servir sans lui donner les moyens de se servir. Et il n'y a aucune manière de donner à quelqu'un les moyens de te servir sans que ça ne le serve. La Bible dit qu'on ne muselle pas un bœuf qui est en train de labourer un champ de blé. Ce n'est pas possible. On est d'accord. Donc, si j'ai besoin de toi, par exemple, comme ministre de la Santé, parce que je crois que tu peux appliquer dans le pays ma vision de la santé, je vais mettre des centaines de milliards de la santé à ta disposition. Tant et aussi longtemps que tu fais dans la santé ce que je rêve de voir dans la santé, tu m'es utile. Que ça me plaise ou non, je vais fermer les yeux ce que tu gagnes, c'est-à-dire les moyens que j'ai rendus disponibles pour la mission. Mais le jour où je me rends compte que tu ne soignes personne, les gens meurent, les hôpitaux sont en décrépitude, et en plus ton village est le plus grand village d'opposants alors que je suis président, je t'arrache la mission, aussi bien technique que politique. Le jour où je t'ai arraché la mission, tous tes avantages sont partis. Ou bien, c'est pareil avec Dieu. Dieu vous confie des missions. La Bible dit que quand Dieu donne une mission, quand il donne une vision, il donne aussi les provisions. Et il dit qu'aucun général n'envoie ses soldats à la guerre sans leur donner de quoi tenir. C'est celui qui envoie des soldats à la guerre qui pourvoit tous leurs besoins pendant la guerre. Mais si tu dis que tu es fatigué de combattre, que toi tu veux retourner à la caverne, tu ne peux pas demander les primes des gens qui sont en mission pour l'ONU. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils disent Jésus est Seigneur et Sauveur. Mais ils ne le croient pas. Jésus Seigneur, ça veut dire maître. Si quelqu'un est ton Seigneur, tu es son serviteur, tu es son esclave. Un président n'est pas notre Seigneur. Hein? Seigneur, c'est quasiment ton propriétaire. Quand tu appelles quelqu'un Seigneur, ça veut dire qu'il est ton maître, tu es son esclave. Que tu lui appartiens, qu'il fait de toi ce qu'il veut. Tu ne fais pas ce que tu veux en lui demandant de t'aider. Il fait de toi ce qu'il veut. Dis Jésus Seigneur, c'est être prêt à n'importe quoi pour faire exactement ce que Jésus dit. La plupart des gens n'en veulent pas. Ils ne veulent surtout pas servir Jésus. Quand je serai à la retraite, je vais être dans la chorale de mon église. Le jour où je serai riche, je vais faire beaucoup de choses pour Dieu. Dieu dit, regarde ce petit-là, il se moque de moi. Il dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas fidèle dans les grandes. Si quand tu as 1000 francs, tu ne peux pas donner 100 francs à un pauvre. Quand tu auras 1 milliard, tu ne pourras pas donner 10 millions à qui que ce soit. Parce qu'il est plus difficile de donner 10 millions même quand on est milliardaire que de donner 100 francs quand on a 1000 francs. Mais les hommes se montrent entre eux. Ne vous inquiétez pas, hein? Dieu va me bénir. Quand je vais devenir riche, je vais faire beaucoup de bien. C'est un menteur. Celui qui veut faire beaucoup de bien même quand il n'a rien, utilise son sourire, utilise son temps, utilise ses mains, utilise n'importe quoi pour rendre les autres heureux. Celui qui, quand il n'a rien, ne peut rendre personne heureux, ne rendra personne heureux quand il aura tout. Et Dieu le sait. Donc Dieu ne donne jamais beaucoup de choses à ceux qui ne donnent rien quand ils ont peu. C'est pour ça qu'il est écrit, que celui qui n'a rien, on lui prendra le peu qu'il a. Et celui qui a un peu, on lui en donnera encore plus. Vous n'avez jamais demandé qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit que quelqu'un n'a rien et dit qu'on lui prendra le peu qu'il a. Ça veut dire que Dieu est en train de sous-entendre que celui qui dit qu'il n'a rien est un menteur, est un hypocrite. Et on va lui prouver qu'il avait quelque chose en lui prenant le peu qu'il a. Tu as la santé, tu dis que tu n'as rien. Quand tu vas t'aliter, tu vas te rendre compte que tu avais quelque chose. Mais celui qui est un peu qui dit, je n'ai pas d'argent, mais je suis vivant, je suis en bonne santé, que puis-je faire pour vous aider? Dieu dit qu'on lui en donnera encore plus. Parce que celui-là va semer le peu qu'il a. Et parce qu'il aura semé le peu qu'il a, Dieu va bénir le peu qu'il a, ça va donner une grande récolte. Celui qui ne veut pas utiliser le peu qu'il a, va dans tous les cas consommer le peu qu'il a. Quand ça finira, comme il n'a rien semé, il n'aura plus rien. Donc le peu lui aura été enlevé, mais il n'aura plus rien. Si vous voulez que Jésus soit votre sauveur, sachez qu'il est sauveur et seigneur. Vous rentrez dans la maison de quelqu'un, c'est le propriétaire. Vous le dépassez, vous allez vous asseoir au salon, vous dites que ouais, le papa de la maison, vous avez besoin de 1000 francs. On dit, c'est lui que tu as dépassé au portail là-bas. Et le gars qui est en train de laver la voiture, il ne m'avait pas lavé la voiture. Hein. Et non, c'est lui qui lavait la voiture. Bon, quand il va finir de laver la voiture, il va venir, je vais lui demander 1000 francs. J'ai déjà vu des domestiques. Elle rentre dans une maison. La patronne est à la cuisine. Dit, je cherche domestique. Tu travailles, dit, non, maman, bon, moi, je n'ai pas le temps de travailler. Je veux juste un peu de nourriture pour manger avec mes enfants partis. Vous n'avez jamais vu ça? Des gens qui vous disent, je ne veux pas travailler, ne parle pas de travail. Je veux juste que tu me donnes un peu d'argent, c'est tout ce que je te demande. Ils ne veulent pas servir. Ils veulent juste être sauvés. Si vous méprisez le Seigneur, vous avez méprisé le Sauveur. Vous ne pouvez pas laisser Jésus Seigneur derrière et courir derrière Jésus Sauveur. Jésus Sauveur est aussi Jésus Seigneur. Quand vous laissez Jésus Seigneur derrière, vous avez déjà laissé Jésus Sauveur derrière. À moins de retourner à Jésus Seigneur, vous ne pouvez plus voir Jésus Sauveur. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils courent derrière les bénédictions au lieu de courir derrière le service. Dieu bénit ceux qui sont en train de le servir. Si vous ne voulez pas le servir, vous n'avez pas de rendez-vous avec ces bénédictions. Et comme dans le monde, Dieu a la sagesse qui fait que plus quelqu'un a de grandes missions en cours pour vous, plus vous lui donnez de grands moyens. Si quelqu'un doit gérer la santé pour moi, je mettrai des centaines de milliers à sa disposition. Et si quelqu'un doit gérer la culture pour moi, il en aura forcément moins. Si quelqu'un doit gérer le ministère de la Défense pour moi, il aura beaucoup plus de moyens s'il doit gérer le ministère des Sports pour moi. La nature de la mission que vous acceptez que Dieu vous confie détermine la nature et la quantité des moyens que Dieu vous donnera. Si vous voulez être massivement béni par Dieu, vous devez prendre de gros fardeaux, de grosses missions de Dieu. Si je t'envoie dans le quartier d'à côté, je te donne l'argent des émigrants. Mais si je t'envoie faire des tournées dans les villages du Nord pour aider les populations, je te donne une 4x4. Quand tu dis, je n'ai pas envie d'aller au Nord, pour toi, c'est trop compliqué, tu viens de dire, je ne veux pas de 4x4. Tu ne peux pas envie de me dire, bon, c'est vrai que je n'ai accepté que d'aller à Saint-Michel, hein, mais donne-moi aussi une 4x4. Comme je vois les gens faire d'ailleurs dans notre pays. Dieu ne marche pas comme ça. Les moyens de Dieu sont pour financer le royaume de Dieu. Quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous faites toujours la volonté de Satan. Il n'y a pas de million des deux. Où on sert Dieu, où on sert Satan. Il n'y a pas de camp des dieux. Il n'y a pas de No Man's Land, il n'y a pas de mission d'interposition de l'ONU en Dieu, Satan. Où on est dans le camp de Dieu, où on est dans le camp de Satan. Tous ceux qui ne sont pas dans le camp de Dieu sont malgré dans le camp de Satan. Et souvent, nous demandons à Dieu de venir financer l'œuvre de Satan. C'est une fille légère qui passe son temps à se vagabonder, à se prostituer d'homme en homme, demande à Dieu de lui donner les moyens de bien s'habiller pour être belle. Qu'est-ce qu'elle demande à Dieu? En réalité, de financer sa capacité à se prostituer à entraîner des gens sur le chemin de la mort. Vous croyez que Dieu serait gentil et responsable de la bénir? Entre nous, si quelqu'un est chômeur, comme je l'explique souvent, il ne sait rien faire, c'est un paresseux, c'est un fainéant. Vous le recrutez, il ne fait rien, il prend son salaire pendant 6 mois, il finit par partir. S'il prend un salaire qui ne fait rien, ça veut dire qu'il est un voleur. Si celui-là prie pour dire, Seigneur, donne-moi un emploi, et Dieu permet qu'il soit employé chez moi, c'est-à-dire que Dieu a créé un voleur dans ma société. Dieu a dit, Seigneur, tu as dit que tu ne donnes rien, qu'il soit sur le chagrin. Tu as osé m'envoyer à moi un voleur. C'est pour ça que s'il ne sait rien faire, il peut prier pendant 10 ans, Dieu ne lui donnera pas d'emploi. Parce que donner de l'emploi à quelqu'un qui ne sait rien faire, c'est le mettre en situation d'aller chercher un salaire sans rien faire, c'est fabriquer un voleur. Dieu ne peut pas fabriquer de voleur. Ou bien, Dieu est logique. Regardez avec Josué. Quand Josué devait prendre possession de Jéricho, Josué vient avec l'armée. Ce n'était pas à eux de combattre. Josué voit l'ange de l'Éternel, donc Dieu lui-même qui se présente, avec une épée à la main, prêt à écrouler le mur de Jéricho. Jésus lui a posé une question qui m'a toujours fasciné. Est-ce que tu es venu combattre pour nous? Parce que l'armée d'Israël était partie à la guerre sur l'instruction de Dieu. C'est le Dieu d'Israël. Israël est le peuple de Dieu à la base. Donc il était logique que Dieu dise, oui, je suis venu combattre pour vous. Dieu lui dit, non, non, petit. Je ne suis pas venu combattre pour toi. Je suis venu prendre le commandement de la guerre. Quelle est la différence selon vous? Le peuple de Dieu, auquel Dieu a dit, va, marche Jéricho. Malgré leur peur, c'est Dieu qui a dit de partir. Ils arrivent au pied du mur, ils voient Dieu et disent, est-ce que tu es venu pour nous soutenir? Dieu dit, je ne suis pas venu pour vous soutenir, je suis venu pour gérer la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas de camp. Et il n'aura jamais de camp. Dieu n'aime pas des gens et ne déteste pas des gens. Quel père vous connaissez qui aime un de ses enfants et qui déteste les autres? Même si un de ses enfants l'a giflé, l'a poignardé, a pris son enfant, a pris sa femme, il va lui en vouloir. Il va parfois le maudire. Mais un enfant restera un enfant. On ne pourra jamais dire qu'un père déteste un de ses enfants et aime un de ses enfants. Si c'est un bon père. Un bon père ne va jamais détester un de ses enfants au point de vouloir qu'il meure. En tout cas, Dieu, en tant que père, ne peut jamais faire ça. Tous les enfants sont les enfants de Dieu. Et Dieu aime tous ses enfants. Regardez bien dans l'histoire d'Israël. Il y a des moments où Dieu équipe Israël, appuie Israël ou détruit le peuple voisin parce qu'ils sont dans l'idolâtrie. Mais quand Israël se trouve idolâtre, la Bible est claire. Dieu suscite des nations païennes pour venir déporter Israël, comme à Babylone, comme en Égypte. Regardez Israël en Allemagne. C'est clair qu'à un moment, Dieu a suscité des gens comme Hitler pour punir les Juifs de ce qu'ils ont fait à Jésus. Il a suscité des gens comme Babylone pour les punir de l'idolâtrie. Il a suscité l'Égypte pour les punir de l'idolâtrie. Dieu va prendre un féticheur, un païen, un animiste pour punir un chrétien qui lui désobéit. Pour lui donner une leçon. Regardez dans les pays comme le Nigeria, comme le Mali. Les chrétiens sont là, ils se battent entre religions, entre dénominations. Chrétiens, catholiques, protestants, ils font le malin. Ils jouent, ils boivent. Le jour où on commence à les persécuter, ils deviennent unis et l'église se développe. Regardez dans les actes des apôtres. Quand ils ont commencé à s'amuser, on leur disait d'aller évangéliser, ils blaguaient. Ils faisaient n'importe quoi. Dieu a fait en sorte qu'on commence à les persécuter. Les Étiennes sont morts. On commence à les persécuter. Quand on les persécute, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se disperser pour fuir. En se dispersant, ils n'ont pas appris la bonne nouvelle. C'est comme ça que l'évangélisation a été faite. Lisez bien dans les actes des apôtres. Chaque fois que les chrétiens se sont réunis, ont voulu vivre confortablement, Dieu a mis la persécution. Quand Dieu met la persécution, comme quand vous jetez un caillou au milieu d'un essaim de fourmis, chacun prend sa direction. Si vous ne voulez pas aller jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu va vous faire persécuter pour vous envoyer aux extrémités de la terre. Comment fonctionne un aigle? L'oiseau le plus puissant du monde. Mais il est démontré que si un petit aiglon grandit dans un poulailler, il va se comporter comme une poule. Cela étant, au début, la maman aigle fait un nid très douillet au sommet des montagnes pour ses petits. Quand ils ont atteint un certain âge, vous savez comment elle fait pour leur apprendre à voler? Elle va chercher elle-même des épines qu'elle met dans le nid. Quand les petits aiglons bougent, les épines les piquent. À mesure que le nid devient confortable, ils sont bien obligés de sortir du nid parce que le nid n'est plus vivable. Et là, ils sont obligés de tomber dans la nature. Au début, pique, ils sont comme un caillou qui va s'écraser. Elle les laisse ailleurs presque au sol et puis, pouf, elle les ramasse. Elle les ramène à l'air. Elle les relâche. Elle fait ça un certain nombre de fois, obligée de voler parce qu'ils sont en train de tomber comme un caillou. Ils finissent par apprendre à voler. Ils deviennent à leur tour des aigles. Si vous voulez rester dans vos églises, dans vos maisons, dans vos familles avec des cocons douillés, Dieu y mettra le feu pour que vous en sortiez pour aller impacter le monde. Dieu dit que nous sommes la lumière. Il a dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Tu as la lumière, tu restes dans ta maison. Tu vas éclairer qui? La lumière n'est pas faite pour le soleil. La lumière est faite pour aller là où il y a l'obscurité. Si tu es la lumière du monde, tu vas là où il y a l'obscurité pour apporter la lumière. Si tu as le sel du monde, tu rentres dans les sauces non salées. Tu ne fais pas le mal pour dire, moi, je suis un sel de qualité, je ne veux pas entrer dans la mauvaise sauce. Tu rentres dans la mauvaise sauce. Les chrétiens font le malin. Je ne veux pas parler aux païens, je ne veux pas parler aux féticheurs, je ne veux pas parler aux christianistes, je ne veux pas parler à tel. Vous ne leur parlez pas. Vous allez les impacter comment? Comment on peut saler une sauce en étant loin? Comment on peut éclairer un endroit quand on ne s'en approche pas? Et on a plein d'alatoya, des chrétiens pharisiens qui passent leur temps à juger les autres. Paul a dit, quand je suis comme chez les païens, je me comporte comme eux, afin dans tous les cas d'en gagner quelques-uns pour le Seigneur. Tel est du diable. Ils sont du diable, Jésus les aime. Vous n'avez pas à les juger. Vous n'êtes pas des soldats de Dieu pour aller vers les gens qui sont de Dieu. Vous êtes des soldats de Dieu pour aller conquérir les gens du diable. Et vous ne pouvez pas conquérir des gens sans les aimer. Vous ne pouvez pas ouvrir leur cœur pour qu'ils écoutent la parole de Dieu sans les aimer. Si vous ne sortez pas de votre cocon, Dieu y mettra des épines. Beaucoup de gens ont des problèmes simplement parce que Dieu est en train de les obliger à se bouger. Mais quand vous vous mettez en mouvement, au début c'est difficile. Regardez Abraham, tu es un jour là et puis Dieu te dit, quitte la maison de ton père. Il te dit même pas où tu vas. Vas-y seulement. C'est un acte de foi. Mais si tu ne vas pas, dans tous les cas, tu n'auras jamais la paix chez ton père. Regardez Jonas. Dieu dit, va leur dire. Jonas a voulu fuir. Le bateau allait couler, il n'y a rien à faire. Il a fallu qu'on le jette à l'eau, sinon ils vont tous couler. Quand on a jeté à l'eau, il est parti dans le vent du poisson. Il a fallu qu'il soit prêt à dire, maintenant je vais le leur dire. Si vous allez mourir dans le vent du poisson. Vous allez mourir dans le vent de vos poissons tant que vous fuirez votre ministère qui consiste à aller sauver les autres. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est Dieu. Vous ne pouvez pas être béni en faisant le contraire à la volonté de Dieu. Donc Dieu dit à Josué, je ne suis pas venu combattre pour vous. Je suis venu faire en fait ma guerre. Dieu n'a pas de camp. Il n'est pas ici ou n'est pas là. Dieu est là. Ou supposons que Dieu est ici. Si quelqu'un est dans le camp de Dieu, Dieu est son allié. Si quelqu'un est dans le camp opposé à Dieu, Dieu est son adversaire. Si Israël se retrouve en train de faire de l'idolâtrie, ça veut dire qu'il se retrouve dans le camp du diable. Dieu l'écrase comme n'importe qui. Lisez la Bible. Comment Dieu a fait détruire Jérusalem. Comment il les a fait déporter. Comment il les a fait massacrer. Comment il les a vraiment malmenés certaines fois. C'est son peuple, non? Parce que là, par leur comportement, ils sont rentrés dans le camp du diable. Quand c'est comme ça, Dieu frappe. Il s'en fout de qui tu es. De la même manière, si un païen rentre dans le camp de Dieu, commence à obéir à Dieu. Dieu va le bénir. Il n'y a pas des gens qui, parce qu'ils sont baptisés, qui, parce qu'ils sont chrétiens, qui, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ont le droit de faire n'importe quoi en disant, Dieu est dans mon camp. Dieu a son camp, qui est la vérité. Et il commande la guerre. La guerre contre tout ce qui n'est pas la vérité. Même quand on parle des différentes sortes d'églises. Lisez Apocalypse 3, vous allez voir. Il y a le message de Jésus aux sept églises. À chaque église, Jésus dit, voilà ce en quoi tu es conforme à la vérité. Voilà ce que j'aime en toi. Bravo pour ça. Mais en telle chose, je ne suis pas d'accord avec toi. Répands-toi et tu auras la couronne de gloire. Cela veut dire qu'à chacun de nous, Jésus nous invite à regarder la parole pour voir en quoi nous sommes conformes à la vérité. Tant mieux. En quoi nous ne sommes pas conformes pour nous mettre en règle. Personne n'est un parfait enfant de Dieu pour voir dans tous les autres de parfaits diables. Chacun de nous est un candidat à la perfection avec Dieu. N'ayant la parole de Dieu que pour seule boussole. Si vous êtes conforme à la parole de Dieu, vous êtes dans le camp de Dieu. Comme il dirige la guerre, vous êtes derrière lui, vous n'avez pas de problème. Si vous vous trompez de changer de camp et que vous vous mettez du côté du contraire de la vérité, Dieu devient votre ennemi, il va vous écraser. Vous pouvez prier, jeûner pendant 100 ans. Si vous n'êtes pas en mission pour Dieu, vous n'allez jamais avoir les moyens de la mission. Regardez les miracles. Il n'y a pas de miracle qui précède le terrain. Comment je vais dire? C'est un peu comme dans la gestion des services. On dit que la production et la consommation des services sont simultanées. Si on veut fabriquer des chaises, par exemple, on les fabrique, on les stocke, on les vend après. La fabrication d'un produit est décalée par rapport à sa consommation. Mais quand j'opère quelqu'un, Le service de l'opéré est simultané avec la réception de l'opération. Si c'est bon, il se réveille. Si c'est pas bon, il meurt. Tu es d'accord? Si je te coiffe, je le fais en direct, je produis le service en même temps que tu le reçois. Si je rate, ta tête est gâtée. Je ne peux pas aller corriger comme si on corrigeait une chaise ou bien dire que ça n'est pas bon au magasin. La production et la consommation du service sont simultanées. Regardez bien dans la Bible. La production et la consommation d'un miracle sont toujours simultanées. Dieu ne produit jamais un miracle pour le donner. Dieu crée les conditions pour qu'en prenant votre miracle, vous le créiez. Regardez avec le premier miracle de Jésus, le vin. Dieu n'a pas, ou Jésus, n'a pas transformé l'eau en vin en leur disant, regardez, c'est du vin maintenant. Allez leur donner. Il a dit, mettez de l'eau. Il n'y avait que de l'eau. Allez servir. Ils ont dit, on va aller servir de l'eau. Il dit, allez servir. C'est-à-dire que la réalité, c'était que ce n'était que de l'eau. La vérité, c'est que Jésus avait déjà fait de ça un vin. S'ils avaient voulu douter, ils diraient, ne nous créez pas des histoires avec notre maître. Le maître est là, c'est la fête. Si le vin est fini, il faut laisser ça comme ça. Il ne faut pas me créer des histoires. Pourquoi tu vas me demander d'aller prendre de l'eau et d'aller présenter à mon maître? Mais pas à la foi. Parce que Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Elle les avait prévenus. Ils ont dit, il a dit d'amener de l'eau. En tout cas, on espère que ça ne va pas créer des problèmes. Amenons pour voir qu'est-ce qui va se passer. Quand ils ont tendu l'eau à leur maître, pour eux, et c'est vrai, c'était toujours de l'eau. Mais ils venaient de faire un acte de foi. Au moment où le maître veut boire l'eau, il dit, mais quel est ce vin-là? C'est le meilleur vin que j'ai jamais bu. À quel moment l'eau est devenue du vin? Qui peut le dire? La mer rouge. Il fuyait, il fuyait. Dieu ne leur avait pas dit que, allez devant la mer rouge, je vais l'ouvrir. Il n'a pas dit ça. Il dit, passez par là. Il dit, tu es sûr? On dit, c'est pas là. Mais il n'y a que la mer. J'ai dit de passer par là. Le doute dit, il faut prendre d'autres chemins. Cette affaire de Dieu ne la fait pas claire. La foi dit, si Dieu a dit de passer par là, tu passes par là et tu attends de voir. S'il veut que tu meurs, meurs, mais passe par là. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'à ce que Dieu permette, l'armée se rapproche. Parce que lui savait ce qu'il voulait faire. S'il avait ouvert la mer trop tôt, l'armée égyptienne allait voir et ne serait pas entrée dans la mer. Lui voulait les faire passer, mais il voulait que l'armée rentre. Donc il fallait que l'armée soit assez proche de la mer avant qu'il ouvre. Vous voyez les ironies de Dieu? Pas à la fois vous êtes là. Vous voyez l'armée. On dit, vous dites, mais c'est Dieu qui les a fait partir là-bas, non? Il va nous faire perdre ici. La foi, c'est de dire, si c'est Dieu là, il doit avoir un scénario, attendez pour voir. Tu peux faire pipi dans la culotte parce que tu as peur. Mais dis-toi que si c'est Dieu qui a dit de venir, il est fidèle, il fera quelque chose. Et effectivement, au dernier moment, il dit, bon, maintenant, lève ton bâton. C'est bête, bâton. Il dit, lève ton bâton. Tu lèves ton bâton et tu vois une mer s'ouvrir. Et tu la traverses. Et il permet encore que l'ennemi te suive. Il dit, mais l'ennemi est en train de venir. Dieu rit. Il attend que l'ennemi soit bien dans la mer. Et maintenant, baisse son bâton. Le miracle vient de se produire. Le miracle n'est pas produit. Dieu n'a pas dit, allez, je vais ouvrir la mer, vous allez traverser la mer. Dieu te dit de faire quelque chose de fou, de déraisonnable. Il n'y a pas de miracle où la consigne est normale. La multiplication du pain. Le gars a deux poissons. On dit, on veut nourrir 12 000 personnes. Il dit, donnez. Mais il est fou. Il n'a pas transformé les deux pains en 12 000 pains. Il a pris le pain, il a fractionné. Il donne. Et chacun s'est dit, il fractionnait. Chacun n'entre pas à la fois, il a dit partager. Ne fais pas comment ça va suffire. Mais chacun partage. Et chacun donne. Et on découvre qu'à un moment, tout le monde a mangé. Et il en reste. Ça arrive des fois dans des maisons. On prépare un repas, on pense que c'est très peu. Des étrangers arrivent, certains disent, mais comment on va faire pour manger? Tout le monde mange, parfois il en reste. Et tout le monde a été rassasié. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais dans les faits, la nourriture a été multipliée. Tout le monde a mangé, ça suffit à tout le monde. À quel moment la nourriture a grandi de quantité? Ce n'est pas votre problème. Toujours est-il que tout le monde a mangé et on a vu qu'il en restait. Le miracle s'est produit au moment où ils faisaient ce que Dieu leur a dit de faire, même si c'était bête. S'ils avaient dit, nous on ne commence pas à distribuer, on a deux pains, ne nous fatigue pas. Dis-nous d'abord comment les 12 000 personnes ont mangé, il n'y aurait pas eu de miracle. La veuve avec Élie, tu as de l'huile, à peine un petit flacon d'huile. Il dit d'aller chercher toutes les bassines que tu peux de commencer à remplir. L'homme va dire, il ne faut pas me fatiguer, c'est la famine. Le peu de force que j'ai là, c'est pas pour me fatiguer à prendre des bassines quand j'ai un centilitre d'huile. Élie dit, va me chercher ça. Elle est partie, elle a commencé à verser. L'huile ne finissait pas. Elle remplissait les tonneaux, les bouteilles, tout. Ça ne finissait pas. L'huile coulait. Mais la bouteille n'a pas grandi. Mais l'huile n'a pas arrêté de couler. Le miracle est toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez les gens comme Naman, tu as la lèpre, va te laver 7 fois dans la boue. C'est bête, tu n'as pas envie de te laver dans la boue. Tant que tu n'entres pas dans la boue, il n'y aura pas de miracle. Regardez, tous les miracles de Dieu sont toujours comme ça. Dieu vous amène toujours dans une situation humainement anormale. C'est pour ça qu'il dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Quand Dieu veut vous faire un miracle, il vous met dans une situation où toute personne normale se moque de vous d'abord. Si vous ne voulez pas qu'on se moque de vous, vous ne voulez pas essayer de vous retrouver en situation de ridicule, vous ne verrez jamais de miracle. Imaginez Marie disant, je ne connais aucun homme, mais j'attends un enfant. Tout le monde dit, celle-là se moque de nous ou quoi? Ou bien, mais voilà, Dieu dit de diffuser cet homme-là. Aujourd'hui, est-ce que c'est extraordinaire? Quand on parle de Marie, regardez aujourd'hui, la science a évolué. Qu'est-ce qu'on appelle les mères porteuses? Il y a même des usines au Nigeria pour fabriquer des bébés maintenant. Ça veut dire quoi? On fait la fécondation, le spermatozoïde, l'ovule, tout est là, le fait là. Et on loue le ventre d'une maman, mais l'œuf dedans. La maman porte la grossesse et accouche l'enfant qui n'a rien de son patrimoine génétique. On appelle ça une mère porteuse. Marie a été, non pas la mère de Dieu, mais la mère porteuse de Dieu incarnée sur la terre. Si un docteur peut faire une injection d'un œuf, c'est le Saint-Esprit qui peut injecter un œuf à Marie. Mais regardez à l'époque comment ça paraissait fou. Mais ce n'est pas fou. La folie est tout liée à ce qu'on sait. Et c'est comme il le disait, il y a des choses qu'on ne peut connaître que spirituellement. Si vous raisonnez dans la troisième dimension, il y a des choses que vous ne pourrez jamais comprendre. Et notez-le, on n'a pas forcément tout le temps de bien le développer. On va revenir là-dessus la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je veux rentrer en détail sur comment on peut opérationnaliser cette mission, ce devoir que nous avons d'être des témoins de Jésus. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir prêtre. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir pasteur. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir diacre. Mais chacun dans son métier doit être un canal par lequel Dieu bénit les gens. Si tu es un enseignant, ta vocation, ce n'est pas de tenir la crêpe parce que tu n'as rien à faire. C'est de bâtir des vies, c'est de sauver des enfants, c'est de transformer des enfants en leur donnant l'amour, en leur donnant tout ce que Dieu t'a rendu capable de leur donner. Tu es un ministre de Dieu au service de ta classe. Si tu es un docteur, tu es un ministre de Dieu au service de tes malades. On doit pouvoir dire, on ne sait pas pourquoi, hein, mais les cas les plus difficiles là, ce gars-là, quand on lui donne, personne ne meurt. On ne sait pas pourquoi. Quand lui là, il suffit qu'il touche un malade, les gens se portent bien. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous? On va dire, c'est parce qu'il est un chrétien. Les gens vont commencer à dire, il va à quelle église? Ils n'ont pas besoin de faire campagne d'évangélisation. Quand on voit la puissance de Dieu en quelqu'un, on a envie d'aller voir la source de la puissance. Jésus a dit, soyez mes témoins. Un témoin, c'est que quand tu as vu, ça a témoigné de quelque chose. Si un chrétien est béni, si un chrétien est prospère, s'il est puissant, s'il a de l'onction, s'il guérit les gens, il redonne la joie aux gens, il est la lumière dans un monde de ténèbres. Est-ce qu'on a besoin de discours pour que les gens viennent à Jésus? Chacune de nos vies doit tellement glorifier Dieu qu'elle attire comme un aimant les vies au Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes tout le contraire de cela. Si vous voulez être béni par Dieu, vous devez réaliser à quel point les âmes sont précieuses pour le Seigneur. Alors, nous allons lire, pour que vous réalisez bien, Luc 15. Qui va nous lire ça? Qui a une voix qui porte bien? Qui va nous lire Luc 15? On va lire tout le chapitre pour que vous réalisez un peu ce que le Seigneur pense du salut des âmes. Hippolyte, on a un micro? On va lire Luc, le chapitre 15. Allons-y.
Alors, je dis d'abord le titre. Parabole de la brebis égarée, de la drachme perdue, de l'enfant prodigue. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'ai perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commençaient à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut plus entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé.
Vous pourrez relire ça tranquillement à la maison. Coup sur coup, il y a là 3 paraboles. C'est-à-dire que Jésus explique de trois manières différentes, coup sur coup, la même chose. Cela veut dire que ça doit être très important. Mais avant de rentrer même dans les paraboles, regardez le début. Jésus était en train de faire la fête avec des gens non fréquentables, des gens de mauvaises mœurs, des prostituées, des gens vraiment, comme on le considère, des gens tout sauf catholiques. C'est comme si on le supprimait à Jonqué en train de faire la fête avec les prostituées. Imaginez un prêtre ou un pasteur qui réunit des prostituées à Jonqué. Qu'est-ce que les gens vont dire? Eh bien, ils vont dire ce qu'ils ont dit de Jésus. Regardez-moi ce gars-là. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Et lui, alors qu'on parle de Dieu, on parle de sanctification et qu'il faut s'éloigner des gens mauvais, lui n'a rien trouvé de mieux que de réunir les gens mauvais et d'être en train. C'est pas qu'il leur parlait, hein, seulement. Il était au milieu d'eux, il faisait la fête avec eux. C'est la première chose qui est intéressante. Si Dieu peut prendre la peine d'aller faire la fête avec des gens qui sont au creux du péché, tout en sachant qu'ils sont de Satan, sinon ils n'allaient pas faire tous ces péchés, qui vous êtes pour les juger indignes de vous recevoir? Vous êtes plus que Dieu par hasard? Dieu est trois fois saint. Il s'approche des gens qu'on estime non fréquentables. Vous êtes vous-même un grand pécheur. Et vous prétendez que vous êtes trop saint, en tout cas le jour, pour vous approcher des gens qu'on dit non fréquentables. Ah, telle personne, c'est un artiste du monde, il ne peut pas venir sur la radio. Dans tel programme, on ne doit pas voir telle personne parce qu'il est rastaman. Lui là, bon, c'est un drogué, il fume la cigarette. Un chrétien ne doit pas fumer la cigarette. Ah, cette soeur, elle a porté pantalon. À l'église, on ne porte pas pantalon. Bon, tu viens ici, tu peux entrer à l'église, dans notre église, il faut attacher la tête, attacher le nez, attacher les oreilles, le cou et ressembler à une momie. Sinon, tu pourras rentrer dans l'église. On voit des gens qui étaient dans le monde, qui se sont connus dans le monde, qui se sont aimés dans le monde. À un moment, le Seigneur les touche, ils viennent à l'église, on les humilie en public. Vous ne vous êtes pas mariés, vous êtes dans le péché, vous êtes sous sanction, vous êtes sous discipline. On les humilie tellement qu'on les fait fuir de l'église pour retourner dans le camp de Satan. Et on dit que c'est ça la foi. Des gens qui ont des poutres dans les yeux passent leur temps à chercher la paille dans les yeux des autres. Jésus dit que c'est à Dieu seul que revient le jugement et la rétribution. Aucun homme n'a reçu de Dieu le droit d'en juger un autre. On peut dire à un frère qui est dans l'erreur, on peut dire à un frère qui est en train de se perdre la vérité de la parole de Dieu, on peut avec amour, avec douceur, attirer son attention sur le fait qu'il est en train de se perdre, non pas pour le briser, non pas pour le casser, non pas pour le punir, mais pour le sauver. La différence entre le jugement et la culpabilisation et l'amour pour éviter quelqu'un à la repentance, c'est quelle est la finalité de celui qui agit. Il y a des gens qui font des prophéties. Dieu m'a dit que tu es un adultère, tu vas mourir. Ça, ce n'est pas une prophétie, c'est une bêtise. Parce que la Bible dit que toute prophétie est faite pour encourager, édifier, fortifier, soutenir, donner la vie. Il n'y a pas de prophétie pour tuer. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, toi tu vas mourir, il n'y a rien à faire. Regardez Dieu. Quand même il veut menacer le peuple, il dit, vous avez. Je vais vous frapper, à moins que vous vous repentiez. Le jugement de Dieu tombe toujours comme un avertissement et comme un appel à revenir à la vie. Ce n'est jamais un jugement de tu es mauvais, c'est fini pour toi, moi Dieu, tu es foutu. Regardez avec Jonas. Dieu a dit je vais détruire Ninive, va leur dire. Jonas dit bon, Dieu là, il va me fatiguer, maintenant je vais dire ça aux gens, il ne va pas les détruire après. Quand il a fui, Dieu l'a obligé. Il est parti finalement dire à Ninive que Dieu va les frapper s'ils ne se repentent pas. Regardez bien dans la Bible. Jonas avait un mauvais cœur, c'était un mauvais prophète. Au fond de lui, il souhaitait que les gens ne se répandent pas pour avoir le plaisir de les voir détruits par Dieu, pour pouvoir dire, voyez, j'ai été le prophète, je leur ai annoncé la mort, ils sont morts. Ou bien, je ne vais pas aller évangéliser parce que dans tous les cas, c'est des païens, ils ne vont pas m'écouter. Va d'abord leur dire qu'ils ne t'écoutent pas. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens de dire que Jésus est Seigneur. Mais la Bible dit que les gens ne peuvent pas dire que Jésus est Seigneur si Jésus ne leur a pas enseigné. Et Jésus ne peut pas leur enseigner si vous n'allez pas leur enseigner. Votre devoir, ce n'est pas de vous demander s'ils vont dire oui ou non. Ce n'est pas votre boulot, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Vous, prenez votre bouche, allez leur dire. Jonas va leur dire, en souhaitant dans son fond intérieur, comme à Sodome et Gomorre, qu'ils n'obéissent pas pour que Dieu les frappe. Dieu merci, les gars, craignant le Seigneur, ont obéi, se sont repentis. Naturellement, Dieu n'est pas un Dieu qui envoie la prophétie pour tuer quelqu'un. Dieu ne condamne personne par défaut. Dieu propose toujours aux gens la vie, dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie pour vous et votre postérité. Dieu vous donne jusqu'au dernier moment le choix. Regardez avec le roi Ézéchias. Dieu a dit, tu vas mourir. Ézéchias dit, non, moi je ne vais pas mourir. Il a commencé à plaider. Dieu lui a donné ses 15 années supplémentaires. La mort n'est jamais la dernière alternative avec Dieu. Et Dieu a été jusqu'à la mort pour que nous ayons toujours le pouvoir de la vie sur la mort. On ne peut pas être un homme de Dieu qui ne prêche que la mort sans jamais dire aux gens comment revenir à la vie. Mais c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et les gens se sont repentis. Et vous voyez, Jonas dit à Dieu, tu vois, tu n'es pas gentil, Seigneur. Pourquoi tu m'as demandé d'aller les prévenir si tu savais que tu n'allais pas les tuer? Vous imaginez un prophète, ça c'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Il demande à Dieu pourquoi il n'a pas puni quelqu'un qui a péché. Alors que lui a dit que s'il pêche, je vais le punir. Tu lui dis que s'il pêche, je vais le punir, c'est vrai. Non pas parce que tu veux le voir puni, mais parce que tu veux qu'il arrête de pécher. S'il arrête de pécher, réjouis-toi. Pourquoi tu es fâché qu'il n'est pas à côté de pécher, que Dieu le punisse? Parce que, comme on l'a vu vers la fin, les gens qui sont chrétiens sont souvent des grands frères jaloux. Ils ont tendance à dire, comme le grand frère avec l'enfant prodige, pourquoi moi je suis là depuis? Ce n'est pas que je manque de quelque chose, puisque Dieu nous a toujours bénis. Pourquoi celui qui vient d'arriver, tu fais du zèle pour lui, puis tout le monde est content, tu lui donnes plein de bénédictions, il vient d'arriver, tu lui donnes le parler en langue, tu lui donnes des grands miracles, hein, le petit qui dit bien, ça fait après 3 ans qu'il connaît Jésus, et puis il enseigne comme ça. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Jésus répond dans la parabole des ouvriers des différentes heures. Il dit, je suis le maître. J'appelle des gens à 9 heures. Je dis, Père, venez travailler, je vous donne 1000 francs à la fin de la journée. On signe un contrat, tu dis oui. Ça me plaît, à 10 heures, j'appelle d'autres personnes. Je leur dis, venez travailler, je vous donne 1000 francs à la fin de la journée. Chacun dit oui. Et j'appelle les gens même à 15 heures. Venez travailler pour 1000 francs, les gens disent oui. On doit finir travailler à 18 heures. À 17h55, j'ai encore trouvé quelqu'un. Tu veux travailler, dit oui, je te paye 1000 francs. Au moment de payer tout le monde, je paye 1000 francs à tout le monde. Et les gens qui sont venus à 9 heures me disent, que pourquoi je vais payer celui qui est arrivé à 17h55 à 1000 francs comme celui qui est venu à 9 heures. Le maître dit, je t'ai promis tes 1000 francs, tu les as eu, non? Où est ton problème de ce que je fais avec mon argent? Vous allez voir, il y a des gens qui font la vie jusqu'à la veille de leur mort. Ils ont 65 ans. Sur leur lit de mort, ils confessent Jésus. Ils vont au ciel comme vous, il n'y a pas de jalousie. Dieu est libre. Pas forcément. Pourquoi tu t'es fait ça pour ça? Oui, il y a au fond de chacun de nous ce côté du grand frère jaloux ou de l'ouvrier de la différente heure qui est jaloux de voir que Dieu bénit les gens. Alors que Dieu veut que nous partagions son cœur. Sauvons les gens seulement. Sauvons le maximum. Tu prends quelqu'un aujourd'hui, tu l'amènes au Seigneur. Moi, c'est mon épouse qui m'a évangélisé. Mais aujourd'hui, ce que je sais de Dieu, c'est loin de ce qu'elle en sait. Mais en même temps, parce qu'elle m'a béni moi, elle est aujourd'hui bénie. Dieu lui a donné la prophétie. Dieu lui a donné cette onction. Il ne faut pas avoir peur de faire grandir les gens dans la foi. Élisée a reçu son onction d'Élie. Il a eu le double. Il a demandé le double. Élie n'a pas dû pas donner le double. Si c'était un béni moi, il a demandé au prophète Élie de donner le double de son onction. Pour elle va dire, bon, Abba, amen. Ou bien, Élie lui a donné le double de l'onction. Et Élisée a été un prophète beaucoup plus grand que Élie. Vous devez partager le cœur de Dieu. Chaque personne sauvée. Sauvée d'abord pour le ciel. Parce que quand vous voyez, vous avez des amis, vous avez des parents, vous avez des frères, vous avez des soeurs, vous avez des collègues. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Quand vous les voyez là, prenez quelques minutes, imaginez-les en enfer. C'est ça la réalité. Moi, j'ai fait une expérience. Quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, même s'il t'a giflé, il t'a frappé, il t'a mis en prison, si tu t'assois, tu sais ce qu'on appelle l'enfer. Tu l'imagines en enfer, tu ne peux jamais avoir envie que Dieu l'y envoie.
Écoutez, déjà même dans la vie, supposons même que quelqu'un, je sais pas, même t'as violé, on dit on va se venger. Mais si on le prend et qu'on commence vraiment à le torturer, qu'on va le torturer, la plupart des gens vont dire bon, ça suffit, je ne veux pas. Mais là-bas, il va subir ça 1 milliard de fois et c'est que ça ne s'arrête pas. Hein? Il ne peut même pas demander à mourir pour que ça finisse. C'est pour l'éternité. Et si vous êtes au ciel, vous allez peut-être voir des gens que vous auriez pu leur dire un mot pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Vous allez passer l'éternité à les voir en enfer. Je ne sais pas si vous serez heureux. Si vous savez ce que risque quelqu'un qui ne vient pas au Seigneur, vous n'allez jamais parler de timidité, parler d'humeur. Il n'y a pas, la Bible nous dit, ne manquez aucune occasion de témoigner. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur ou prêtre. Quelqu'un, pas les temps qui courent, ça ne manque pas. Franchement, les temps sont durs. Parfait, on rentre dedans. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Il n'aura pas dit deux phrases avant de commencer à se plaindre. Partout, des gens ont des problèmes. Jésus est là. Qu'est-ce que tu as comme problème que Dieu ne peut pas régler? Dans un pays où tout le monde a des problèmes, ce n'est pas compliqué d'évangéliser. Chaque personne qui se plaint vous tend la main. Il appelle au secours. On n'a pas besoin de sortir de son village, de sortir de sa maison, de sortir de son église, de sortir de son lieu de travail, de sortir de sa famille pour évangéliser. Chaque personne qui n'est pas une voix complète est un candidat qui demande secours. Vous les voyez? Vous faites comme si vous ne les voyez pas. Vous prenez un Zémidien. Il a des soucis tellement qu'il est en train de penser ailleurs, il veut vous tuer sur la moto. Mais il faut l'amener au Seigneur. Et je peux vous dire une chose. Les temps n'ont jamais été aussi favorables pour l'évangile qu'aujourd'hui. Quand un pays traverse une crise, c'est le meilleur moment pour gagner des âmes. Parce que quand l'homme a des problèmes, quand il n'a plus le choix, quand il est désespéré, il est prêt à tout essayer. Vous allez voir que les féticheurs, les dacis, les charlatans, les maîtres spirituels vont se multiplier. Parce qu'un peuple qui a des problèmes est candidat à tout ce qui sort de la troisième dimension. Si les chrétiens ne se lèvent pas pour sauver les gens, Satan va les perdre encore plus maintenant. C'est une lourde responsabilité. Dieu va te regarder, va dire, tel qui était à ton bureau là, regarde, il est en enfer. Tel jour, tu as eu telle opportunité. Tel jour, tu as eu telle opportunité. Tel jour, tu as eu telle opportunité. Tu vas devoir baisser la tête. Il a dit, bon, je ne voulais pas le gêner. Je ne voulais pas... On parle de laïcité. Bon, je dois respecter sa vie privée. La religion n'est pas quelque chose qu'on est. On ne vous parle pas de religion. On vous parle de vie. Ce n'est pas de religion qu'il s'agit. Quelqu'un a un problème de maladie. Le chrétien doit lui apporter une solution. Je n'ai rien à te donner. Je ne suis pas docteur. Mais moi, j'ai pratiqué mon Dieu. Bien entendu, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Si toi-même, tu n'as jamais pu te guérir en chassant la maladie, tu ne peux pas donner à quelqu'un la guérison. Mais si tu as pratiqué le Seigneur, tu peux dire comme Pierre, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus. Le gars marche. Tu n'as pas besoin de faire deux phrases pour dire que tu es évangéliste, pasteur. Continue ton chemin et son âme est déjà gagnée pour le Seigneur. Quelqu'un a faim. Il dit, je n'ai pas de quoi payer mon loyer. Viens, mon frère, on va prier. Moi, je suis chrétien. Jésus a dit qu'il est toujours là. Il fait tel, tel, tel. Tu n'as pas besoin de croire. Viens, je vais prier seulement. Je prophétise qu'au nom de Christ Jésus, avant demain, midi, ton portier va arriver, le Seigneur t'aura trouvé une solution. Tu auras l'argent qu'il faut. Tu paieras ton loyer. Si ce n'est pas vrai, Jésus n'est pas Seigneur. Si vous le dites à la fois et vous dites, Seigneur, je sais, comme Jésus a fait pour Lazare, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que ces 15 000 francs loyer là, c'est petit pour toi. Tu veux le sauver. Tu as dit que tu vas être en fait si il est sauvé. Ton trésor est immense. Tu as dit que tu ne veux pas acheter sa gloire. Tu as besoin de 15 000, Seigneur. Je ne vois même plus donner les 15 000. Mais pour la gloire de toi, pour sa foi, pour l'éternité, donne-lui les 15 000 d'ici demain midi. Au nom de qui Jésus est puré. Vas-y. Dieu va lui donner. Quand il revient, il va dire, hé hey, frère, toi Dieu est fort, hein. Tu sais que j'ai eu l'argent, j'étais là, et puis quelqu'un venu du village, quelqu'un qui m'a jamais donné l'argent. Je t'ai dit quoi hier? Il va commencer à vous bombarder de questions. Et puis, ah bon, et c'est comment? Mais c'est qui votre Jésus là? Mais vos pasteurs là sont des escrocs, puis vos prêtres là sont des pédophiles. Il va commencer à parler. Ça veut dire que son cœur est touché. Maintenant, il résiste. Il essaie de se débattre comme un diable dans l'eau bénite. Avec amour, vous l'écoutez, vous répondez, vous argumentez, vous plaidez, le Seigneur vous conduit. Ce gars-là va donner sa vie à Jésus. Vous venez de sauver quelqu'un pour l'éternité. Vous venez de le bénir. Il va devenir prospère. Il va devenir heureux. Sa famille va être restaurée. S'il a 5 enfants, 6 enfants, vous avez sauvé 6 âmes. Votre compte bancaire au ciel s'alourdit. Or, ce que vous ne savez pas, la Bible nous dit ceci. Vous allez prospérer comme prospère l'état de votre âme. C'est une formule mathématique. Vous allez prospérer comme prospère l'état de votre âme. C'est-à-dire que votre prospérité matérielle, votre joie, votre santé, vos bénédictions matérielles sont toujours fonction de vos bénédictions spirituelles. Comment on accumule des trésors spirituels? Comment votre âme peut être bénie? En consommant la parole de Dieu, en obéissant à Dieu et en faisant, en semant ce que Dieu aime. Cela veut dire que plus vous faites ce que Dieu aime, plus vous gagnez des âmes, plus vous apportez la vie, plus vous apportez la lumière, plus votre âme va prospérer. Plus votre âme va prospérer, plus vous allez prospérer matériellement. Parce que Dieu viendra vous donner les moyens d'en faire encore plus. Il vous a donné peu, vous lui avez été utile. Il voudra vous donner beaucoup pour que vous soyez plus utile. Si tu as deux serviteurs, l'un prend 10 000 francs, il travaille 10 fois plus, l'autre prend les mêmes 10 000 francs, il ne fout rien. Tu auras tendance à donner carrément 20 000 ou à 15 000 à celui-là et à virer l'autre. Le grand secret de votre propre bonheur, le grand secret de votre propre paix réside dans la consécration de votre vie à Dieu. Vous devez arrêter de croire que Dieu est un fétiche. Nous sommes habitués au fétichisme qui consiste à aller voir une idole et à lui demander de nous bénir. Évidemment, tout ce qu'il vous donne est toujours celui de malédiction, est toujours celui de chagrin. Et nous sommes habitués à essayer d'utiliser des fétiches. Même si ça ne marche pas, Satan nous endort, nous croyons que ça va finir par marcher jusqu'au jour de notre mort. Parfait. Ce n'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est que si on peut utiliser un fétiche, on ne peut pas utiliser Dieu. Dieu n'est pas votre garçon de course. Dieu n'est pas votre planton. Dieu n'est pas votre banquier. Dieu n'est pas votre collaborateur. Vous ne pouvez pas passer votre temps à donner des bons commandes à Dieu, à lui ordonner de faire ci, donne-moi un peu d'argent, donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi la santé. Ce n'est pas un pharmacien et vous allez aller vous servir en produits médicaux. Votre relation avec Dieu relève de la relation d'un homme avec son père, relève de la relation d'une femme respectable avec son mari. Et souvent, je donne cet exemple. Il y a une différence très mince entre le fait d'aimer quelqu'un et que la personne vous bénisse en retour et le fait d'être un ou une prostituée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous aimez votre femme, ou vous aimez plutôt, vous êtes une femme, vous aimez votre mari, ou vous êtes un enfant, vous aimez votre père. Vous l'aimez parce que c'est votre père tout simplement. Ou vous l'aimez simplement parce que c'est votre mari, vous l'avez choisi, il a fait des fausses qualités, mais vous l'aimez. Il est évident qu'en tant qu'homme, s'il est responsable, en tant que père, s'il est responsable, vous n'avez pas besoin de demander. Il pourvoit vos besoins. Il sait que sa femme a besoin d'être belle, elle a besoin de s'habiller, elle a besoin de se coiffer, son enfant a besoin d'argent de poche. Il n'a pas besoin de faire du cinéma, de faire du protocole de jeûner pour qu'on le nourrisse. Tout père responsable pourvoit avec joie dans la mesure des moyens aux besoins de ses enfants. Et tout mari responsable pourvoit avec générosité aux besoins de sa femme qui l'aime et qui le rend heureux sans qu'elle ait normalement besoin de le réclamer. Ses désirs sont quasiment des ordres. Si c'est un mari normal. Évidemment, si vous n'attendez pas que Dieu vous donne votre mari, comme j'ai fait cette erreur, que vous allez prendre un kamikaze, c'est tant pis pour vous. Il faut attendre. La Bible nous dit qu'une bonne femme est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas un produit de la sagesse. Quand j'ai divorcé, ma maman m'a dit une fois, désormais, il faut faire attention en voulant choisir ta femme. J'ai dit, maman, comment on fait attention pour choisir une femme? Il faut m'expliquer ça. Est-ce qu'il y a un détecteur, est-ce qu'il y a un laboratoire, quelle est la technique pour faire attention sur les femmes? Elle n'a pas été capable de répondre. Heureusement, Dieu n'a pas attendu ça. Une bonne femme, c'est un cadeau de Dieu. Il n'y a pas de technique pour ça. Vous ne savez pas vous-même ce que vous serez demain. Vous ne savez pas ce qu'elle sera demain. Vous ne pouvez pas être sûr que vous allez être compatible demain. Mais Dieu, lui, sait tout ça. Pour choisir un conjoint être heureux, c'est Dieu qui le choisit parce qu'il vous a fabriqué en père pour faire une père qui va faire son œuvre. Il faut toujours laisser Dieu faire les choses. Donc je dis, si vous êtes avec un mari normal, vous l'aimez, la dérivée naturelle de cet amour, c'est qu'il vous bénit. S'il est riche, vous ne manquerez de rien. Jusque-là, c'est normal et c'est sain. Jésus nous dit d'ailleurs dans la Bible que la relation entre Christ et son Église est de la nature de la relation entre un mari et une femme. Maintenant, quand est-ce qu'on commence à parler de prostitution? C'est vrai qu'une femme va être naturellement bénie par son mari. Mais la femme qui sachant que donc, une femme doit être bénie par son mari, au moment de choisir son mari, dit, cela étant, je vais regarder l'homme le plus riche et c'est lui que je vais épouser. Elle s'en fout de son caractère. Elle s'en fout de qui elle est, qui il est. Elle commence à ne regarder que le volume de son portefeuille. Et c'est au volume de son portefeuille qu'il décide que c'est lui mon mari. Celle-là est une prostituée. Elle est en train de se vendre pour l'argent. La limite est mince entre une femme qui est avec un bon mari qui est béni et celle qui a choisi un bon mari pour être bénie. la limite est mince. Mais il y a d'un côté une femme respectable et de l'autre une prostituée. Tu es le fils de quelqu'un qui est riche. Tu veux, tu ne veux pas, ça te plaît pas, quand il va mourir. Parfois même c'est un fardeau pour toi, tu es bel et bien obligé d'hériter. Et je connais des gens qui héritent, qui n'ont même pas le temps de venir faire la formalité parce que ça ne les intéresse pas. Mais ça te plaît pas, tu as hérité. C'est normal. Mais si dès que ton père a 70 ans, tu commences à dire, bon, de quelle maladie il souffre? Est-ce que par hasard il n'a pas la prostate? Docteur, quand quelqu'un a la prostate, il vit combien d'années? Parce que tu as vu que ton papa a un immeuble à tel endroit, et puis il a un état à tel endroit, tu fais déjà les calculs comme tu as des grands projets. Si d'ici au moins 2 ans, tu vas mourir, que tu penses cette maison-là, ça va. Il y a des jeunes comme ça qu'on tourne, j'en connais plein. Il ne faut pas écarquer les yeux. Je suis dans l'immobilier, je vois plein de gens qui viennent, qui disent, je vends tous mes biens. Je dis, pourquoi? Il dit, de mon vivant, mon enfant est en train de prier pour que je meure à cause de mes biens, pour que je vends tout. J'en ai vu ça, faux. On a déjà, non? Il vient, il veut vendre tous ses biens, à n'importe quel prix. Parce que de son vivant, ses enfants veulent l'enterrer à cause de ses biens. Vous voyez, quelle est la différence? Quelqu'un aime Dieu, Dieu le bénit, c'est normal. Mais celui qui vient à l'église, qui fait semblant d'obéir à Dieu, simplement pour être béni, devient prostitué. Êtes-vous un prostitué de Dieu ou un amoureux de Dieu? C'est la question à méditer ce soir. Si vous êtes un prostitué de Dieu, on peut blaguer nous les hommes, hein? On ne peut pas blaguer Dieu. On peut se moquer d'un homme parce que lui ne peut pas voir au cœur, il ne voit que les apparences. Mais Dieu ne regarde qu'au cœur, il ne regarde pas les apparences. On ne peut pas faire de la prostitution avec Dieu. Vous pouvez faire tout le cinéma qui vous plaît. Si vous n'aimez pas Dieu sincèrement, vous pouvez ne pas l'aimer totalement au début, mais si vous n'aspirez pas à l'aimer, que vous êtes simplement intéressé par qu'est-ce que vous pouvez gagner avec Dieu, c'est-à-dire que vous prenez Dieu pour un gigolo, ça ne marchera pas. Il n'est pas votre serviteur, c'est vous qui êtes son serviteur. Regardez nos prières. Nous faisons comme si Dieu était notre serviteur, nous demandons de faire tout ce que nous voulons. Non. C'est lui le maître et nous le serviteur. Si le maître nous nourrit, c'est parce que nous sommes ses esclaves et qu'il faut qu'on mange pour servir. Quand tu as un chien, tu le vaccines, tu le soignes, tu le laves et il y a des chiens qui coûtent plus cher que des hommes. Tu t'occupes d'eux, pas parce que tu veux, parce que c'est dans ton intérêt de t'occuper d'eux. Mais mon chien ne va pas me dire, amène-moi des biscuits, amène-moi du chocolat, amène-moi du gâteau. Je suis son maître, c'est lui mon esclave, ce n'est pas l'inverse. Ou bien, nous ne sommes pas les copains de Dieu, hein? Nous sommes ses esclaves. Et il nous nourrit parce qu'il est miséricordieux. Il nous soigne parce qu'il est gentil. Il s'occupe de nous parce qu'il veut que nous soyons heureux et que nous ayons la joie de le servir. Mais de là à croire qu'il est notre serviteur et qu'on peut commencer à lui demander n'importe quoi, sans que cela ne corresponde en rien à ce dont nous avons besoin pour le servir, il y a un pas à ne pas franchir. Votre vie doit être conçue comme la vie d'un esclave qui est béni par son maître tant qu'il est fidèle. Cela veut dire que vous ne pouvez pas raisonner la relation avec Dieu sans raisonner votre dépendance et votre soumission à Dieu. Or, la plupart des gens ne veulent même pas évoquer la question de leur soumission à Dieu. On fait comme on veut, ça ne regarde pas Dieu, c'est ma vie privée, c'est ma liberté, c'est l'émancipation de la femme, c'est les droits de l'homme, c'est l'autonomie, c'est la liberté, c'est la démocratie. Et dès qu'il y a un problème, on commence à aller à l'église. Dieu vous a donné rendez-vous là-bas, vous connaissez quand? Vous n'avez pas de contrat avec quelqu'un. Quand sachez, vous venez le voir. Quel contrat vous avez avec Dieu? Si vous n'avez pas de contrat avec Dieu, vous ne pouvez pas invoquer Dieu quand il y a des problèmes. Et votre contrat avec Dieu ne peut jamais être un contrat autre qu'un contrat de serviteur. Vous devez donc vous demander comment désormais, chaque jour, vous devez servir Dieu. Quand vous réveillez le matin, Seigneur, donne-moi aujourd'hui la grâce de t'être utile. Utilise-moi. Ne vous demandez pas la stratégie. Quand j'étais à Ouaga, Dieu m'a dit quelque chose de merveilleux. Il m'a fait dire par un prophète malin qui me connaissait. Là, le gars ne comprenait même pas. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit, il te dit telle chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais lui expliquer parce que moi, j'ai compris. Il dit, Dieu me dit, de te dire, qui ne t'a pas appelé pour ta tête? Il t'a appelé pour ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est Dieu qui a dit oui. Je dis, bon, moi, j'ai déjà compris, il faut laisser. Il dit, non, explique-moi. Il dit, mais c'est à toi qu'elle a parlé. Il dit, oui, mais il m'a juste dit de te dire, qui ne t'a pas appelé pour ta tête? Il t'a appelé pour ton cœur. Il dit, moi j'ai déjà compris ça plus de votre. Il dit, non, explique-moi. Et je lui ai expliqué. Nous, auxquels Dieu a donné la grâce d'être intelligents, la tentation humaine est forte. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu veut qu'on le serve, de commencer à vouloir impressionner Dieu par notre cerveau. C'est-à-dire, on se dit, si Dieu m'a rendu intelligent et qu'il m'appelle pour le servir, c'est qu'il compte sur moi pour faire de la stratégie. Et Dieu te dit, petit, c'est moi qui ai donné l'intelligence. Le moment venu, on va utiliser ça. Pour le moment, range-moi ça de côté. Ce dont il s'agit ici, ce n'est pas tes stratégies. Tu ne peux rien dans le cas là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es un cœur pour moi. Je sais que tu es prêt à tout pour moi. C'est ça qui me plaît. Le reste, laisse-moi faire. Dieu va jusqu'à me dire, écoute, tu n'es pas l'architecte. Tu n'es pas le constructeur. Tu es un maçon. C'est-à-dire quoi? Ton boulot, c'est que quand je dis, mets une brique là, tu mets là et tu te tais. Le ciment est fini, ce n'est pas ton problème. C'est moi le constructeur. Si le ciment finit, c'est mon problème, c'est ma maison. Il pleut, on va faire des dalles. Ce n'est pas ton problème. C'est ma maison, moi, et c'est moi Dieu. Ne t'inquiète pas de la pluie pour moi. Ah, le sable est fini. Ce n'est pas le problème du maçon, il va te dire, patron, le sable est fini, et il va dormir. Le jour où ça te plaît d'acheter du sable, il continuera le chantier. Mais regardez, quand Dieu nous appelle, nous nous stressons, nous nous inquiétons. On va faire quoi maintenant? On va faire quelle stratégie? Dieu dit, laisse ta tête de côté. Je ne t'ai pas appelé, c'est un message là pour chaque chrétien. Vous allez commencer à dire, mais quelle stratégie je vais mettre maintenant pour gagner des âmes? Et il n'y a pas de stratégie. Dieu veut juste un cœur disponible. Seigneur, je suis tout à toi. Je m'abandonne à toi. Je t'appartiens. Fais de moi ce que tu voudras. Et quand les circonstances se présentent, mon épouse vient de rentrer, demandez-lui. Tu vas marcher, tu es pressé de faire des courses. Tu vas acheter beaucoup de choses et vite rentrer. Tu as chez une bonne dame. En plus, c'est une commerçante musulmane. Elle commence à te parler. C'est vous qui avez chanté à tes noms. Elle commence à te poser des questions sur Jésus. Tu as le choix de dire, je suis pressé, j'avais un rendez-vous. Et dit, quelqu'un me pose une question sur Jésus. C'est peut-être la seule chance qu'elle aura de donner sa vie à Jésus. On connaît des gens qu'on a vus. On n'a pas eu le temps de leur parler le lendemain, ils étaient morts. Est-ce que je dis que je suis occupé, je ne lui parle pas, ou je m'assois tranquillement et je gagne une âme? Tu t'assois tranquillement et tu gagnes une âme. Et après, tu continueras. Dans tous les cas, si tu laisses l'âme derrière, là où tu vas te montrer qu'il n'y a rien dedans. Nous n'avons pas besoin d'être des architectes du salut. Jésus a dit, le champ, les récoltes sont prêtes. Priez pour que le maître envoie des ouvriers dans son champ. Un ouvrier ne se demande pas qu'est-ce qu'on va planter, à quel moment il faut planter, est-ce que la pluie va tomber. Si la pluie ne vient pas, c'est le problème du propriétaire du champ. Ou bien, si la récolte pourrit, c'est le problème du propriétaire du champ. Toi, le maître va demander, est-ce que tu étais là à 8 heures? Tout ce qu'on t'a demandé à faire, tu l'as fait? Oui. Point final, c'est tout ce que je te demandais. Nous devons être humbles devant le Seigneur. Et parfois, de très bonne foi, nous nous fatiguons, nous courons, nous essayons d'impressionner Dieu. Alors qu'il dit, laissez-moi tous vos efforts de tranquille. Je veux vous conduire par mon esprit. Obéissez-moi. Laissez-vous aller. Regardez Paul, un grand apôtre. La Bible nous dit qu'il a voulu aller dans certaines localités pour évangéliser. Et la Bible dit, le Saint-Esprit l'en a empêché. Tu peux vouloir faire un programme d'évangélisation impressionnant. Dieu dit non. Il a dit comment? Je veux. Dieu dit non, tu ne vas pas là. Mais s'il dit non, tu ne vas pas là, c'est qu'il a prouvé que tu es ailleurs qui est plus important. Toi, tu ne le sais pas. C'est son chien. Il dit de ne pas aller gagner une âme là. C'est ton problème, non? Pourquoi tu veux t'énerver? À moins que tu ne sois pas en train de faire ça que pour lui et que tu aies d'autres objectifs. Dans ce cas, on peut comprendre pourquoi tu t'énerves. Mais si tu n'agis que pour le Seigneur, c'est difficile. Mais il faut s'abandonner au Seigneur. Il faut accepter de marcher par l'esprit et non plus par la chair. Et nous allons voir tout ça la semaine prochaine. Parce qu'une chose est d'être sensible à la nécessité de gagner une âme. Une chose est de vouloir réjouir le ciel. Une autre chose est de le faire selon le plan de Dieu et non pas selon le plan des hommes. Parce que quand Satan vous voit, vous réveille pour le Seigneur, il dit, bon petit, tu veux aider le Seigneur? Viens, viens, viens. Le Seigneur dit de faire tel. Il t'envoie dans le décor comme il a dit à Jésus, jette-toi du haut de la montagne, tu vas être un héros. Il dit, non, il n'a pas dit ça. Il a dit aussi que tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Satan va nous proposer des faux projets, apparemment très spirituels, pour gaspiller notre volonté de servir le Seigneur, pour nous décourager. Vous allez essayer, ça ne va pas marcher. Ça va vous briser le moral, ça va vous décevoir, ça va vous ruiner. Conséquence, le lendemain, vous n'aurez plus le courage de recommencer. Satan aura marqué un point. Vous devez, pour servir le Seigneur, vous assurer de le faire conformément à la volonté du Seigneur. Donc, Jésus était avec eux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le plus grand défi à relever par les chrétiens. Sortir de leur église et aller au contact du monde qui a besoin d'être sauvé. Si je suis de la jeune chambre, je dois avoir le courage de parler aux déicis de Jésus sans avoir peur qu'on se moque de moi. Je ne veux pas laisser les gays ici aller faire un programme d'évangélisation dans un village. Ça, là, c'est trop facile. Si Jésus te met quelque part, c'est là qu'il veut que tu parles. Si tu es dans une famille où tout le monde a des problèmes, Dieu veut que tu sauves d'abord ta famille. La Bible dit que celui qui n'est pas capable de s'occuper des siens un infidèle vaut mieux que lui. Tu dois les porter en prière. Tu dois les porter en intercession. Tu dois être patient. Tu n'as pas la peine de créer des débats pour rien. Mais demandez au Saint-Esprit d'organiser lui-même les temps et les circonstances pour que vous touchiez leur cœur. Vous allez remarquer que le fils prodige a commencé à penser au retour quand tout ce qu'il avait a été fini. Et quand il s'est rendu compte que sa vie est encore moins que la vie d'un ouvrier de son père. La plupart des gens vont subir la même chose. Quand vous voyez que quelqu'un est en faillite, c'est un candidat idéal pour le ciel. Quand quelqu'un a des problèmes de santé, c'est un candidat idéal pour le ciel. Un homme bousillé par Satan est un candidat parfait pour le ciel. C'est souvent les moments où, parce qu'ils sont au creux de la vague, et Dieu le permet aussi, ils sont sensibles à l'appel du Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans des problèmes, faites particulièrement attention. C'est un terreau pour le salut de son âme. C'est un terreau pour le restaurer, le faire redécoller. Ensuite, il n'a été capable de retourner que parce qu'il a fait le calcul et il a accepté d'être humble. Il s'est dit, comme on dit, je ne veux pas par orgueil mourir de faim. Je jette mon orgueil à la poubelle et avec humilité, quitte à redevenir un esclave de mon père, je retourne voir mon père pour lui demander pardon. Et il y a beaucoup de gens qui voient qu'ils sont dans l'erreur, qui voient qu'ils sont dans l'impasse. Mais parce qu'ils ont été quelqu'un d'important, parce qu'ils ont été si, parce qu'ils ont été grands féticheurs, ils se disent, et moi je vais retourner dire aux autres féticheurs que ça c'était une bêtise. Moi-même, l'imam, je vais aller dire aux autres imams que notre affaire là, Jésus est meilleur. Et vous commencez à les voir venir la nuit pour dire, je connais des musulmans, des Aladia, qui viennent pour dire, prie pour moi un peu plus, là Jésus est fort, prie pour moi au nom de Jésus. Et la journée, il ne veut pas qu'on parle de Jésus. Mais la nuit, elle dit, viens prie pour moi au nom de Jésus. Il faut prier pour ces gens. Il faut demander au Seigneur de leur donner la force d'avoir le courage de venir à la lumière. Donc, cela prend cette humilité-là. Cela prend cette repentance. Et cela prend le fait, même si le salut est gratuit, d'accepter de reconnaître qu'on est dans l'erreur. D'accepter de reconnaître qu'on est pécheur. Sachant que quand il est arrivé, le Père ne l'a même pas boudé. Il n'a pas frimé. Le Père a couru vers lui. Si elle a moindre, la plus petite envie de venir au Seigneur, le Seigneur va courir vers cette âme-là. Ne vous dites pas, bon, est-ce qu'il est vraiment prêt? Est-ce qu'il est prêt à abandonner les péchés? Il n'a pas besoin d'être prêt à abandonner tous les péchés avant de venir au Seigneur. Le gars-là n'avait pas, on n'a pas dit qu'il était devenu bon. On n'a pas dit qu'il a arrêté d'être mauvais. Il a eu chaud, il est venu vers son père. Son père ne se demande pas s'il est devenu parfait. Il le pardonne d'abord. Il le récupère d'abord. On verra après comment on va le transformer. N'attendez pas que le gars coupe ses rastas. N'attendez pas qu'il arrête de fumer. N'attendez pas qu'il porte des pantalons civilisés. N'attendez pas qu'il se comporte comme un saint avant de dire qu'il est digne de venir au Seigneur. Marie Madeleine était une prostituée. Jésus en a fait son ami pour la gagner au Seigneur. On voit des gens qui estiment qu'il faut que les gens deviennent des saints avant qu'on dise qu'ils sont des chrétiens. C'est la foi qui transforme les gens. Personne ne peut s'arracher au péché sans Jésus. Non, si vous avez dit que les gens s'arrachent au péché avant de venir au Seigneur, personne n'y arrivera. Est-ce que vous étiez hors du péché? Vous étiez au creux du péché quand Dieu vous a appelé. Et après, vous transforme. Arrêtez d'estimer que les gens doivent être parfaits pour être dignes de recevoir le salut. Le Père a de la compassion pour eux. Il court vers eux. Il a sacrifié le plus gros de cerveau pour gagner une âme. Le Seigneur est capable de créer des scénarios. Moi, je connais des scénarios. Le Seigneur fait prendre un avion à des dizaines de personnes simplement pour aller gagner une âme. Le Seigneur est capable de dépenser 1 milliard dans un projet et vous voyez à la fin, il voulait juste gagner une âme. C'est ça le veau gras. Le plus grand veau de cet homme riche-là, il a sacrifié pour un vulgaire enfant qui revient. Cela vous montre que quand vous êtes le serviteur de Dieu, qui va chercher, imaginez qu'il vous avait envoyé chercher son enfant. Vous ne pouvez pas vous dire est-ce qu'il va l'accepter maintenant, est-ce qu'il va accepter de le convaincre maintenant. Ce n'est pas votre problème, lui va courir. Vous faites simplement votre boulot de mettre son enfant en mouvement vers lui. Le Seigneur fera la différence. Et quand on revient au Seigneur, on passe de la mort à la vie. Les gens se débattent avec la mort. Regardez aujourd'hui, les gens font tout, rien ne leur marche. Les gens font comme s'ils avaient un problème. Les gens n'ont pas de problème. Ils sont morts. Jésus a dit, ah, je ne sais pas si c'est Pierre ou qui devait aller enterrer son père. Laisse les morts enterrer leurs morts. Un mort au sens spirituel, ce n'est pas celui qui est dans la tombe. C'est celui à qui rien ne vit. Ses finances ne vivent pas. Sa santé ne vit pas. Son couple ne vit pas. La joie ne vit pas. Il est mort debout. Il n'y a que la chair qui est là. Regardez les Bénois, ils passent tout leur week-end aux enterrements à côtoyer la mort. On ne peut pas passer tout son temps avec l'esprit de mort et être vivant. Laissez les morts tranquilles. Et occupez-vous de la vie. Quand vous venez au Seigneur, vous passez de la mort à la vie. Quand vous voyez quelqu'un qui a un problème, regardez-le. C'est comme quelqu'un qui a le sida. Quand quelqu'un a le sida, il y a plein de maladies qui arrivent. On traite la maladie comme si la maladie était le problème. La maladie n'est pas le problème. Le problème, c'est le sida qui crée toutes les autres maladies. La plupart des gens sont des gens qui ont le sida spirituel. Tant qu'ils n'ont pas guéri de ça, ce n'est pas la peine de traiter leur diarrhée, leur trouée consort. Peut-être vous prolongez la durée de leur vie jusqu'au salut. Il faut aller traiter leur sida spirituel, leur donner le salut. Rien d'autre n'est important. C'est pour ça que même nos œuvres sociales, on va donner des moustiquaires aux gens, on va donner du riz aux gens. Le Seigneur m'a dit, pourquoi voulez-vous perdre du temps en donnant aux gens à manger? Vous allez donner des médicaments pour la diarrhée en gars qui a le sida. Je vous dis de leur arracher le sida, vous allez leur donner des médicaments pour la diarrhée. Allez me prendre ces gens-là à la mort. On va donner des moustiquaires, on va donner des bonbons, on va dans les orphelinats. Ça, c'est bien. Un païen peut faire ça. Ça, c'est la chose. C'est le pailleur du bien. Jésus n'est pas venu pour nous donner des moustiquaires, pour nous donner des bonbons, pour nous donner des fagueries, pour nous payer nos scolarités. Il est venu pour que ces brebis aient la vie en abondance. Donnez-leur la vie. Et la vie, c'est Jésus. Et ça ne coûte rien. Il ne vous faut pas de budget pour donner Jésus à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il vous faut pour donner Jésus à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il vous faut pour donner Jésus à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il vous manque pour donner Jésus à quelqu'un? Et plus vous voulez le donner, plus vous le recevez. Parce que Dieu pourvoit toujours vos besoins. Si vous avez une faim de donner Jésus, que des gens reçoivent Jésus de vous, Jésus se donnera à vous. Moi, l'un de mes secrets, l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup grandi rapidement dans la foi, c'est que chaque chose que j'ai découvert avec le Seigneur, j'étais pressé de le partager avec des gens. Parce que je suis pressé de le partager, Dieu m'en donne encore plus. Je suis abondamment béni de la révélation de Dieu, parce que chaque vérité que je découvre, je suis pressé de la donner à beaucoup de gens. Quand vous êtes comme ça, Dieu va vous noyer de bonnes choses. Nous allons nous arrêter là. Si je me laisse aller, on peut parler jusqu'à demain matin. Mais retenez-le bien. Vous ne pouvez pas être un prostitué du Seigneur. Vous ne pouvez pas être un gigolo avec Dieu. Vous ne pouvez pas faire semblant de suivre Dieu pour être béni. Il peut vous tolérer ça une ou deux fois, le temps que vous compreniez. Mais si vous ne voulez pas comprendre, Dieu ne va pas adjoncter. Vous ne pouvez pas jouer de la prostitution avec Dieu. Il va bien falloir que vous décidiez à marcher avec le Seigneur. Il va bien falloir que vous passiez alliance avec lui. Qui dit alliance dit contrat. Contrat, accepter sa parole, décider de marcher avec lui, décider de le laisser vous transformer, décider de le laisser vivre à travers vous. Il nous a achetés au prix de son sang. C'est comme Carambéry disait, les gens disent, je te donne ma vie Seigneur. Mais c'est faux. Il a payé ta vie. J'achète un esclave. Et il me dit maintenant qu'il s'est livré à moi. Mais j'ai payé. Si je vous pose 1 million pour acheter un esclave, l'esclave dit, bon, maître, ok, maintenant je suis prêt, je m'offre à toi. Il m'a dit, mais toi, tu racontes des bêtises. On ne t'a pas dit combien j'ai payé. Le gars a subi la croix avec tout ce qu'il a précédé pour vous acheter. Maintenant, vous dites que vous lui donnez votre vie. Vous devriez dire, je te livre la vie que tu as payée. J'ai volé pendant longtemps ton bien en essayant de le soustraire à la livraison. Bon, maintenant, je restitue ton patrimoine. Prends ce qui t'appartenait, fais-en ce que tu veux. Et comme c'est Dieu, il ne s'est pas acheté des esclaves pour les faire souffrir. Comme Joseph, il s'est acheté des esclaves pour en faire des rois. Joseph, c'est une prophétie d'un esclave qui est acheté par quelqu'un pour devenir quasiment le roi chez la personne. Dieu vous appelle à être des esclaves ayant pour destinée. S'ils obéissent en prison, s'ils restent fidèles contre vents et marées, si à chaque étape de leur vie, même dans la prison, même dans la tentation, même dans l'épreuve, s'ils restent fidèles, Dieu veut faire de chacun de ses esclaves un roi comme Joseph, qui va aller sauver son peuple, rester dans le monde. Est-ce que vous voulez être le roi? Est-ce que vous voulez être la tête de votre famille? Est-ce que vous voulez être dans votre métier, celui qui règne, celui qui éclaire, celui qui est la lumière? Est-ce que vous voulez que quand les gens sont malades, ils accourent vers vous pour dire, pardon, pardon, prie pour moi, au moins je sais que ton Dieu t'exauce. Est-ce que vous voulez que les gens qui sont découragés viennent vers vous et que par amour vous leur redonniez la vie? Que vous voulez rentrer dans des villages voir des enfants qui rayonnent parce que vous avez donné la parole à leurs parents? C'est la question. Sommes-nous des prostituées ou des amoureux de Dieu? Une fois encore, Dieu ne juge personne, il demande de rentrer dans son camp. C'est pas que Dieu est contre toi, il n'est pas contre toi. Si tu te rends compte que tu étais un prostitué de Dieu, c'est pas compliqué, rentre dans son camp. Dieu ne tient pas à punir quelqu'un. Il nous appelle à la vie. Acceptons la vie. Donc,
Pour ceux qui veulent s'amuser, il y a Gospel Night Club demain à 23h. Les cultes ne commencent pas cette semaine, commenceront la semaine prochaine. Ça va être le dimanche soir à 19h. Et puis en attendant, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour, je ne sais pas encore comment on va intituler le séminaire, mais ça va être un genre de plan d'action, de mode opérationnel. On va échanger sur des techniques, sur des tactiques, encore que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Mais on va essayer de partager quelques idées de base sur comment dans notre vie au quotidien, sans trop d'efforts, nous pouvons devenir le sel de la terre, nous pouvons devenir la lumière du monde, nous pouvons devenir des instruments de la main de Dieu pour apporter la joie. Vous allez voir par exemple mon cas. Les gens m'imaginent riche. Les gens disent tous, qui dit bien milliardaire, qui dit bien milliardaire. Au nom de Jésus, je suis milliardaire. Mais c'est moi qui sais ce qu'il y a dans mon compte. Donc, j'ai toujours dit à Dieu, mais pourquoi ils disent tous que je suis milliardaire? Les gens disent, oui, bon, c'est que c'est une prophétie, je suis d'accord. Mais à un moment, Dieu a fini par m'expliquer. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, vois-tu, la prospérité, la richesse, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Quand tu es milliardaire en réalité, on le sait parce qu'on te voit dépenser des milliards. Il n'y a pas grand monde dont on voit le compte bancaire. Si on te voit faire des dépenses importantes, on s'imagine que tu as beaucoup d'argent. D'accord? Parfait. La merveille avec l'amour de Dieu, même quand je n'étais pas chrétien, la merveille avec la générosité dans la vie, c'est que dans la vie, et plus avec le Seigneur, tu peux te donner des choses qui valent des millions sans que ça ne te coûte un franc. Quand tu prends un patron d'entreprise qui est découragé, il te pose une question. Le Saint-Esprit est clair, tu lui dis deux phrases. Lui sait que ces deux phrases viennent de sauver des milliards dans son affaire. Quand il part, il se dit, mais ce type vient de me donner des milliards. Ça, c'est pour lui. Tu vois quelqu'un d'autre qui est découragé. Tu lui parles 5 minutes quasiment en blaguant. Il rentre, il a l'impression que tu as fait quelque chose d'énorme pour lui. Quand depuis 10 ans, Dieu t'a fait la grâce de passer ton temps à édifier les gens, à encourager les gens, à fortifier les gens, dans l'esprit de chacun, tu lui as donné des millions. Quelqu'un qui pendant 10 ans a donné tant de millions à tant de personnes, dans l'esprit des gens, il faut qu'il soit milliardaire pour en donner tant que ça. Que tu aies des milliards ou pas, réalise bien que tu as donné des milliards. Et celui qui a donné des milliards est un milliardaire. Et parce que tu as donné des milliards, parce que tu as dépensé des milliards, tu es bien obligé de compter des milliards. C'est les règles de la vie. Donnez, donnez, donnez sans compter. Et la vie vous le rendra au centuple. Pas de questions, on va prier, on va faire la prière finale. Soyez patient avec vous-même, ne soyez pas pressés, ne décidez pas de révolutionner le monde en un jour. Demandez au Seigneur simplement de vous guider. Dites-lui, je me donne à toi, je m'appartiens à toi, prends le contrôle, fais dans ce que tu veux. J'ai volé pendant longtemps dans ce que tu as acheté, ma vie, maintenant je la ramène. Fais dans ce que tu veux, j'arrête d'être un voleur de ma vie parce que tu l'as payé au prix de ton sang. C'est bon? Qui va faire la prière finale?
Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous croyons que tout ce que tu as fait dans le passé, tu l'as fait simplement pour nous, pour affermir notre foi. Nous sommes tous ici pour être de véritables disciples, de véritables ambassadeurs pour le royaume de Dieu. Nous te demandons de bien vouloir nous remplir de la puissance d'en haut, afin que nous puissions aller pour réjouir le cœur de Dieu, pour mettre le ciel en fête pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pendant que l'orateur était en train de nous édifier par l'esprit de vérité, Seigneur, tu mettais dans le cœur de chacun de nous des projets pour sauver des vies. Nous demandons à ce que ces projets qui sont des idées aujourd'hui, de simples pensées, de simples visions, de simples rêves, nous demandons à ce qu'elles deviennent réalité au nom de Jésus-Christ. Père Saint, ici et maintenant, chacun de nous va rentrer à la maison. Nous demandons à ce que nous rentrons sains et saufs, Seigneur. Nous demandons à ce que tu nous permettes d'assister à des réunions divines, afin que nous soyons plus motivés pour la cause divine au nom de Jésus-Christ. Ici et maintenant, Seigneur, que chacun de nous rentre à la maison une encore raffermi, rempli de la puissance d'en haut pour une nouvelle vision pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour nos affaires, nous demandons, puisque tu as dit, c'est l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, enrichit chacun de nous dans toutes nos affaires au nom de Jésus-Christ. Ici et maintenant, je demande également pour l'orateur de le remplir davantage, Seigneur,
que ce couple soit un couple béni, Seigneur, un couple modèle dans tous les domaines de la vie. D'ailleurs, nous accorder la grâce de cesser d'être hypocrites, Seigneur, dans ta maison, mais que nous soyons de véritables disciples, des modèles pour tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Merci infiniment de ce que tu l'as déjà accordé. Et nous croyons que, comme tu l'as dit, que tu feras au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons, d'ailleurs le faire pour la seule gloire de ton nom, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite, Seigneur. Merci infiniment de ce que tu l'as déjà accordé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huygon. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Tandis que la solution est